Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et nombreuses. Et merci beaucoup à Astrid et au Montant l'air d'accueillir cette rencontre. On est hyper contents et contentes. Donc nous, donc Mathieu et moi, c'est Pauline, on fait partie d'un collectif qui s'appelle les Causes Heureuses et on s'est créé, on est un collectif d'architectes jeunes diplômés et d'étudiants et étudiantes en architecture. On s'est créé en 2023 à la suite d'une grande mobilisation nationale qui a réuni les 20 écoles d'architecture en France sur des questions de moyens alloués aux études d'architecture, au salaire des profs, à d'autres moyens pour nos études. Et cette mobilisation a fait quand même beaucoup de bruit. Et à l'issue de ça, on a créé ce collectif. On est sur Instagram si jamais vous êtes intéressés pour nous suivre. Et on fait des tables rondes en invitant des gens qui nous inspirent sur des sujets qui relient donc les questions de politique liées à la fabrique de la ville et des territoires qui sont notre futur métier ou métier. Et comme on s'est créé aussi à l'issue d'un, enfin à la suite d'un mouvement étudiant, on a fait le pont avec Frustration Magazine qui s'est aussi relancé après le mouvement des Gilets jaunes et qui sort cette année un numéro de Frustration Magazine sur la ville capitaliste qui traite de sujets qu'on tend à traiter aussi dans notre collectif. Donc c'est pour ça que pour nous ça fait sens de recevoir Emma Conquet et Nicolas Framont ce soir qu'on va laisser se présenter.
Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation à l'Association des Causes Heureuses et à la librairie du Mont en l'air. Je m'appelle Emma Conquet, je suis journaliste pigiste dans le Lot. C'est là où j'ai grandi et j'y suis retournée il y a à peu près 4 ans. Je suis journaliste depuis à peu près 7 ans et je travaille sur divers thèmes qui vont de l'écologie au féminisme rural, à la jeunesse, etc. En parallèle de ça, je fais une analyse critique des représentations des territoires ruraux dans les médias et dans la société.
Bonsoir tout le monde, je m'appelle Nicolas Framont, moi je suis co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Voilà, Frustration Magazine, on s'est créé il y a plus de 10 ans maintenant, c'était en 2014. Ça a été très confidentiel pendant longtemps et ensuite on s'est déployé d'abord sur le web après le mouvement des Gilets jaunes. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on a un magazine papier annuel qui est une sorte de... au début on le pensait un peu comme un best-of du web. Donc le site web de Frustration qui est le média principal, il est en accès libre et gratuit. Il est financé par ses lectrices et lecteurs, certaines d'entre vous sont sans doute là ce soir. Et chaque année on sort donc cette revue qui au début était un best-of et maintenant c'est que des inédits, où on essaie de traiter d'un sujet de la façon à la Frustration Magazine, c'est-à-dire avec le plus de franc-parler possible, en ayant une analyse radicale mais accessible du monde capitaliste. Et donc cette année, on a choisi le thème de la ville dans lequel Emma a écrit. Donc voilà, je suis très content d'être là aussi ce soir. Merci beaucoup de nous avoir invités.
Donc justement, Pauline l'a pas reprécisé, mais vous travaillez beaucoup sur la question des terminologies et comment on peut déconstruire les termes politiques qu'on utilise, à l'instar des classes ouvrières que vous préférez aux classes populaires par exemple. Et là, je me penche plutôt vers Emma, sur la question des réalités. Justement, dans ton article sur le numéro de Frustration Magazine, tu parles d'urban gaze, en référence au male gaze de Laura Mulvey ou du bourgeois gaze de Rob Grams. Comment tu définis l'urban gaze et pourquoi c'était important pour toi de nommer ce phénomène? Et quels exemples t'ont amené à traiter ce sujet?
Oui, en effet, j'ai commencé à parler d'urban gaze mais en lisant le papier de Rob Grams sur le bourgeois gaze. J'avais déjà commencé à repérer un petit peu certains biais, beaucoup de biais dans la presse et dans les médias depuis quelques années. Et je comptais déjà, même en passant les concours pour les écoles de journalisme, décentraliser l'information, essayer de parler depuis les campagnes. Mais c'est vraiment quand j'ai lu l'article de Rob que m'est venue cette expression de bourgeois gaze, parce que comme le male gaze d'urban gaze pardon, comme le male gaze ou le bourgeois gaze, j'aime bien quand même l'idée de mettre en avant un rapport de domination, et en l'occurrence un rapport de domination des grandes métropoles. voire même de Paris, qui concentre énormément de pouvoir sur les territoires ruraux et sur les habitants des territoires ruraux. Et en plus, je trouve qu'il y avait quand même un lien assez intéressant à faire avec le male gaze, puisque comme pour décrire les femmes, les campagnes sont souvent décrites au singulier, on va dire la campagne, je vais un week-end à la campagne, ou comme on peut dire la femme, et surtout représentée en creux des villes, comme les femmes ont longtemps été représentées en creux des hommes. Donc cette urban gaze, je le définis un peu comme un prisme urbain et donc bourgeois. J'insiste aussi dessus parce que je veux pas du tout substituer les inégalités territoriales aux inégalités sociales. Au contraire, on va dire qu'elles s'alimentent. Et un prisme urbain et bourgeois sur les territoires ruraux, donc tantôt misérabiliste, un peu l'image d'une France en déclin, un petit peu triste, grise, ou de l'autre côté une campagne qui va être romantisée, un peu un lieu de villégiature, un lieu de repos et de calme. Et à cela s'ajoute aussi une récupération qui est celle de d'une France un peu héroïsée. Voilà la figure du paysan comme héros de la nation, qui se sacrifie au travail, etc. C'est souvent un regard centralisé et un regard méprisant, condescendant donc sur les campagnes.
Je voulais rajouter que Emma et moi, on fait la même expérience, c'est-à-dire qu'on est dans le milieu du journalisme ou des médias, mais on ne vit pas et on ne travaille pas en région parisienne. Et le milieu du journalisme en France, il est extrêmement centralisé, y compris dans le monde des médias alternatifs ou des médias indépendants. Donc, ce qui n'est pas le cas pour Frustration, puisque du coup, toute une partie de l'équipe n'est pas à Paris, même s'il y en a. Et c'est vrai que je pense qu'on ressent quand on vit... Moi, j'ai vécu un temps à Paris et puis je suis pareil retourné dans ma région natale, en Charente-Maritime. Et en fait, c'est vrai que quand tu as une sensibilité, enfin, le fait de ne plus y être fait que tu vois très vite à quel point il y a une centralisation des informations et une vision parisiano-centrée de l'information. Mais effectivement, et on va en reparler, l'analyse courte, ça serait de s'arrêter à ça en faisant une opposition Paris-Province. Et en fait, derrière ça, il y a des prismes de classe qui sont très forts, dont on va pouvoir aussi parler. Mais je pense que c'est ça qui nous a tiré dans le travail d'Emma, c'était d'arriver à mettre des mots là-dessus. Et le concept d'urban gaze, comme le concept de bourgeois gaze de Rob, ça fait écho en fait à des expériences qu'on fait toutes et tous quand on se sent en décalage avec une représentation dominante, quoi. Il y a des représentations dominantes qui viennent des médias dominants, qui viennent du cinéma. Et puis on se dit, mais ça correspond pas vraiment à notre réalité vécue, voire ça n'y correspond pas du tout. Et ça, ce décalage-là, on peut le sentir dès qu'on n'est pas dans la norme. Et en fait, la plupart des gens ne sont pas dans une norme, puisque ceux qui définissent la norme sont plutôt une minorité, quoi.
Et justement, en parlant d'opposition et de regard urbain, on voulait un peu vous questionner sur la question des néo-ruraux et des ruraux locaux, un peu pour discuter du cliché, donc comment s'est construit ce cliché des néo-ruraux de gauche et des locaux ruraux de droite, notamment après ce contexte électoral municipal. Comment expliquer ce cliché? Est-ce qu'il est alimenté par l'urban gaze aussi? Et voilà.
Ouais, donc super de me poser cette question, parce qu'en plus les municipales viennent de se terminer et j'ai été aussi amenée en tant que journaliste indépendante à être sollicitée par des rédacs qui m'ont demandé de faire notamment des sujets sur les néo-ruraux. Bref, c'est un sujet qui m'anime beaucoup parce que je trouve que ça correspond pas du tout à la réalité. En gros, pour résumer, depuis les élections européennes, dans la presse, on a vu, à la télé, on a vu une carte qui représentait un peu une France fracturée, entre guillemets, avec d'un côté des villes qui voteraient à gauche et de l'autre des campagnes qui voteraient extrême droite. Et donc, sur tous les plateaux, ensuite, on a eu des analystes qui sont venus nous parler de cette fracture territoriale, entre guillemets, qui a été aussi alimentée par Jérôme Fourquet et la pseudo France périphérique, etc. Déjà, il y a plusieurs sociologues qui montrent que c'est plus un vote social qu'un vote territorial. Il se trouve qu'une grande majorité des classes populaires se retrouvent à la campagne, ou du moins pas dans les centres urbains, c'est-à-dire que parfois ça va être dans les villages périurbains ou dans les petites villes moyennes, mais donc c'est pas une lecture qui est très pertinente du point de vue politique déjà. Et ensuite, selon moi, il y a une essentialisation des ruraux qui seraient des gens très conservateurs, mais par nature. Et c'est aussi quelque chose qui a été, je pense, alimenté par une partie de la gauche aujourd'hui, qui considère que, de toute façon, il n'y a rien à sauver de la part des ruraux, parce qu'ils seraient de nature être conservateurs, d'extrême droite, etc. Donc on ne va pas faire ce travail là, d'aller les voir, etc. Et à mon sens, il faudrait au contraire recontextualiser, déjà arrêter d'uniformiser les territoires ruraux en estimant qu'ils votent tous de la même manière. Il y a différentes histoires sociales et politiques selon si on vit dans le Lot ou si on vit dans la Meuse, par exemple. Moi, je viens du Lot et c'est un bon exemple parce que c'est un département qui vote à gauche, historiquement, plutôt socialiste. Et jusqu'à encore récemment, les municipales, là, changent un peu la donne. Mais encore une fois, même au sein du Lot, on ne va pas voter de la même manière si on se trouve dans le Quercy Rouergue, dans le Quercy Blanc, au fin fond des Côtes du Quercy ou en Bourriane, pour reprendre un peu les petites régions historiques au sein même des découpages administratifs. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est donc déjà ce découpage là droite gauche. Et pour revenir sur la question, donc tu posais la question des nés ruraux, ça n'a aucun sens en fait de parler moi par exemple, mon village l'Albinque a basculé à droite au municipal pour la première fois depuis que je suis née à cause des nés ruraux, pas les nés ruraux bobos qu'on voit dans la presse. Des néos, en fait, qui viennent du sud-est de la France, de Toulon ou des banlieues de Paris et de Bordeaux, et qui viennent fuir les insécurités, entre guillemets, et qui viennent trouver une petite maison avec un jardin au calme, qui veulent pas du tout se mélanger à la population, qui en ont rien à faire du lien social, et qui veulent juste en fait leur petit précaré, et qui ont voté pour avoir des caméras de sécurité dans un village de 2000 habitants, quoi. Donc c'est ça, et c'est eux qu'on fait basculer notre village qui historiquement, et dont la population est historiquement à gauche, à droite. C'est malheureusement donc on a cette image en fait du néo-rural bobo écolo qui vient apporter tout son savoir sur l'écologie dans les campagnes, mais c'est comme l'explique le sociologue Élie Guéraud, c'est d'abord en fait la majorité des néo-ruraux, ça va être des retraités qui arrivent. Ensuite, ça va être plutôt des cadres ou des gens qui viennent pour faire grandir leurs enfants au vert à plus de 35 ans, donc des bourgeois beaucoup, et qui eux ne se mélangent pas du tout et vont pas du tout s'investir dans les associations locales. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi une partie, et encore une fois, ça dépend des territoires. Dans la Drôme, j'imagine que c'est un phénomène qui est exacerbé, c'est ce qu'on voit dans reporter dans des médias écologiques, mais ou en Ariège par exemple, parce que c'est une terre historiquement depuis les années 60 où il va y avoir toute la partie des contestataires de mai 68 qui ont été dégoûtés un petit peu de la révolution qui n'a jamais eu lieu à Paris, qui vont arriver dans les campagnes donc du Larzac ou d'Ariège et tout. Et après, finalement, ça va être des terres de résistance, des terres un peu plutôt qui vont être qui vont attirer des populations alternatives, etc. Mais c'est pas la même chose partout, quoi. Et en plus de ça, quand on parle de néo-ruraux, de quoi on parle? La plupart des néo-ruraux, en fait, c'est des nouveaux arrivants. Il y a aussi des gens qui viennent de votre campagne, qui changent juste de campagne, d'autres qui... Moi, par exemple, qu'est-ce que je suis, a priori? je suis jamais vraiment... On parle pas des gens qui reviennent, sachant que je suis même pas revenue, étant donné que je ne suis jamais partie. J'ai fait mes études à Toulouse, à Strasbourg, à Marseille. Je revenais tous les étés. J'avais une association dans Lot depuis mes 18 ans. J'organise des festivals depuis mes 18 ans dans le Lot. Je reviens quasi tous les mois depuis que j'ai 18 ans. Est-ce que je suis vraiment partie? Je vote dans le même bureau de vote depuis mes 18 ans. Donc, et pourtant, j'ai acquis tout un tas de codes et on va dire un capital même qui va plus se rapprocher de ceux de Toulouse ou j'en sais rien, des grandes métropoles et tout, hein, dans les codes vestimentaires ou dans mon vocabulaire, etc. Donc je suis peut-être perçue comme une néo pour certains lotois ou lotoises, et je suis sûrement perçue comme une lotoise avec mon accent du Lot quand je vais à Toulouse. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de parler comme ça. En fait, dont les sociologues se rendent compte aussi, c'est que les nouveaux arrivants vont s'allier en fait avec la petite bourgeoisie culturelle locale. Donc il y a l'opposition loco vs néo, elle n'est pas permise en fait. C'est-à-dire que les profs, les personnes issues des professions des CSP+, etc., ou les médecins, ou les petits la petite bourgeoisie intellectuelle ou culturelle locale va s'allier, même pour les municipales, on voit sur les listes à des néo-ruraux. Donc encore une fois, ça va être plus une lecture de classe. Le truc, c'est que bien sûr, ça va être intériorisé par une partie des gens qui vivent à la campagne, comme quoi, voilà, qui vont considérer que telle personne qui a tel capital va correspondre à ce cliché d'une néo-ruraux bobo qui vient nous donner des leçons de morale. Bon, je te laisse le micro.
Non, mais je suis absolument d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette notion de néo-rural, parce que sur les réseaux sociaux, je me fais souvent insulter de néo-rural. Ah ouais, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que j'avais fait du maraîchage avec mon ex-compagnon, et en plus dans les années 2019-2020, donc vraiment à la période d'âge d'or de Brut Nature, où on nous montrait toujours des néo-maraîchers qui arrivaient dans un coin, qui allaient tout révolutionner, et qui correspondaient à un certain nombre de clichés. Et je pense qu'on y correspondait en partie. Mais en fait, je me suis demandé quelles étaient les connotations derrière cette histoire de néo-rural. Bah, ça veut dire pas vrai rural. C'est ça un peu qui est sous-entendu. Et donc, du coup, derrière, en fait, c'est qu'on oppose des essences entre elles, quoi. Il y aurait des gens qui sont vraiment du coin et ceux qui sont pas du coin. En fait, dans un pays comme la France, il y a une forte mobilité géographique par ailleurs. Comme tu dis, en fait, les gens bougent pas mal. Donc, en fait, moi, j'habite dans une petite ville. Bon, bah, des vrais de la vraie ville, des vrais qui ont grandi là. Moi, par exemple, je suis un des seuls dans mes amis qui a fait mon lycée localement. La plupart des gens, ils viennent d'ailleurs, etc. Parce que nos vies professionnelles sont comme ça, hein, nos parcours familiaux aussi. Tout comme, par exemple, le fait d'avoir vécu en Île-de-France, c'est une expérience très partagée. Parce qu'en fait, le marché de l'emploi fait qu'en France, dans tout un tas de professions, on est obligé à un moment donné de passer par Paris, voire d'y rester ou d'en repartir. Donc en fait, il n'y a pas de vrais habitants du coin, etc. Et tout ça, finalement, c'est vrai qu'il y a un fond conservateur. Ce fond conservateur, notamment, il permet d'invisibiliser les différences de classe, tu en as parlé. Dans le magazine, il y a Benoît Coquart, le sociologue, qui en parle dans un entretien que j'ai fait avec lui. Lui, notamment, il insiste beaucoup sur le fait que grâce aux clivages géographiques qui vont remplacer les clivages de classe, bah, du coup, la bourgeoisie locale, qui peut être assez... il peut y avoir une bourgeoisie locale très puissante. Hein. Moi, je suis dans un département qui, si vous regardez les moyennes, la Charente-Maritime, c'est plutôt plus pauvre. Mais par contre, vous avez des endroits comme la ville de Cognac, où vous avez des riches familles qui possèdent des vignobles et qui sont des millionnaires. Vous avez des grands céréaliers. Les agriculteurs, c'est pas que des pauvres gens. Il y a des gens très riches. Donc en fait, à la fin, le clivage géographique, ça permet à la bourgeoisie de s'invisibiliser. Et la bourgeoisie, elle a toujours besoin de s'invisibiliser. Elle a toujours besoin de nous faire regarder ailleurs que sur le clivage de classe, de déporter notre regard sur d'autres types de clivages. Et ça tombe bien parce qu'il y a des forces politiques qui lui servent ce discours-là. Donc effectivement, le clivage géographique, par exemple, il va pas mal pouvoir servir un discours d'extrême droite qui va opposer, bah, par exemple, les banlieues à la France rurale. Derrière, il y a un sous-texte raciste, évidemment, alors même que la France rurale, elle est diverse. Hein, c'est pas d'un côté, c'est pas aussi simple que ça. Mais avec une vision d'extrême droite, bah, on va vachement insister sur ces clivages-là. Et d'ailleurs, l'extrême droite française s'est beaucoup construit sur une exaltation de la figure du français rural, des villages, versus le français cosmopolite des métropoles. Donc ça, c'est très important d'attirer notre attention là-dessus et de faire en sorte que dans notre vie quotidienne, on utilise ce clivage-là. Et je pense malheureusement, c'est plutôt réussi. Le terme de néo-rural, il a une histoire et je pense qu'il fonctionne un peu, mais le pire, c'est le terme de bobo. Parce que le terme de bobo, il est utilisé même à gauche. Et le terme de bobo, en fait, c'est vraiment une vision culturaliste des clivages sociaux. C'est pas du tout une vision économique. D'ailleurs, on est bien en peine de définir ce qu'est un bobo, généralement. Moi, je vois qu'autour de moi, les gens utilisent le terme bobo pas du tout pareil. À Paris, les gens utilisent plutôt le terme bobo pour définir un certain nombre de pratiques culturelles qui évoluent tous les 5 ans. Tantôt, c'était les chemises de bûcheron. Maintenant, ça va être le matcha latte. Enfin, voilà, il va y avoir des choses comme ça. C'est une définition fluctuante. Et dans la petite ville où je vis, les bobos, en fait, ça va être le terme utilisé en fait, pour désigner les bourgeois. Donc en fait les gens riches. Donc en fait ça n'a pas de consistance, mais c'est une victoire idéologique de l'extrême droite parce que ça a permis d'insister sur les clivages culturels, c'est-à-dire comment on se comporte, ce qu'on pense, ce qu'on boit, plutôt que sur les clivages économiques. Et ça c'est très pratique dans une société aussi inégalitaire et où il y a de l'exploitation de la part d'une minorité bourgeoise, c'est parce que du coup on ne pense pas à cette exploitation-là. On ne pense pas à la bourgeoisie quand on est trop occupé à déceler les bobos autour de nous. Et en fait, déceler les bobos autour de nous, ça peut prendre un temps fou, puisque comme vous le savez, on est tous le bobo de quelqu'un. Donc en fait, c'est infini et c'est inconsistant. On pourrait parler d'autres clivages inconsistants. Il y en a un qui est très à la mode dans la presse magazine, c'est le clivage générationnel. Donc il y aurait les Gen Z qui seraient des feignants au travail, qui partiraient à heure fixe, quel scandale, plutôt que de faire des heures supplémentaires gratos, etc. Et là aussi, ce clivage-là, en fait, il a peu d'existence. Ce qu'on voit, c'est que la jeunesse, ça ne veut rien dire. Il y a des jeunesses prolétaires et puis il y a des jeunesses bourgeoises. Et finalement, l'expérience de la jeunesse, elle passe par en fait, des expériences que tout le monde fait dans la France de Macron. C'est la précarité, c'est l'exploitation au travail, c'est le management toxique. Mais en fait, si vous mettez l'accent sur le clivage générationnel, la bourgeoisie peut invisibiliser sa ponction sur nos revenus, sur notre travail, et puis essayer de voir comment, entre nous, entre générations, on peut s'affronter, et c'est le cas. Quand vous voulez faire passer des réformes des retraites, c'est très important, c'est très intéressant de faire en sorte qu'on stigmatise par exemple les retraités en disant que c'est eux qui nous volent le produit de notre travail, plutôt que de stigmatiser les 500 plus grandes familles de France, les 500 fortunes de France, qui ont vu leurs revenus augmenter, être multipliés par 3 depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Donc voilà, et pour moi, en fait, ces clivages géographiques, ça Benoît Coquart le dit bien, en fait, l'expérience qu'on se fait de, par exemple, vivre dans une petite ville, elle est très différente selon vos moyens économiques. Récemment, moi je fais partie d'un groupe militant local qui, on cherche à faire des cahiers de doléances sur les questions de santé, parce que dans plein d'endroits, on est confronté à des problèmes de désertification médicale. Concrètement, il y a des gens pour qui la désertification médicale, comme ils ont un rapport à l'espace, plus vous êtes riche, plus vous avez un rapport à l'espace qui est détendu. C'est-à-dire concrètement, vous pouvez prendre un TGV pour Paris pour consulter un spécialiste si on vous a détecté une masse étrange. Parce que vous connaissez des gens sur Paris chez qui vous allez pouvoir loger, et puis vous pouvez sortir 150 euros au mieux pour prendre votre billet de TGV. Et puis il y a des gens pour qui l'espace, il est beaucoup plus restreint par des contraintes économiques et puis des contraintes sociales. C'est que de toute façon, Paris, vous n'y êtes jamais allé et vous ne connaissez personne qui peut vous héberger et vous n'avez pas les moyens. Et donc du coup, sur un même problème vécu localement, à savoir, on n'a pas de spécialistes qui nous permettent qu'une tumeur qui soit détectée, elle puisse être traitée à temps, selon votre rapport à l'espace et qui est bien un rapport de classe, vous n'allez pas du tout le vivre différemment. Et je finirai sur un truc intéressant. Il y a un journaliste qui s'appelle Adrien Nazelli qui a fait un livre qui s'appelle « Et tes parents, ils font quoi ?» qui a un regard un peu critique sur le discours de transfuge de classe. Et notamment, il montre dans son introduction, il fait toute une liste des procédés rhétoriques qui permettent, et ça c'est un sport national en France, à des bourgeois ou à des grands artistes ou à des politiques de toujours se donner des origines modestes. Parce que quand vous vous donnez des origines modestes alors que vous êtes aisé, c'est une façon de dire que vous avez mérité votre position sociale. Et pour ça, un des procédés, c'est de dire qu'on vient de telle région. Parce que comme dans l'imaginaire français, la province égale les pauvres, si vous dites moi je viens de Normandie, et là les gens ils imaginent Cosette ou Bécassine, etc. Alors que si vous voulez dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle petite ville, moi je viens de la ville de Saintes, vous avez toujours un quartier bourgeois. Il y a toujours des bourgeois, il y a toujours des lycées, il y a toujours des classes européennes, allemand première langue, la structure sociale en France, elle se répète dans toutes les villes de France. Donc en fait, dire je viens de Charente-Maritime ou je viens de Normandie ou je viens du Sud, ça ne veut pas dire j'aurais pu jouer dans un film de Robert Guédiguian. Mais le clivage géographique est utilisé comme une façon, comme une sorte de faire-valoir d'origine modeste tout d'un coup qui serait surgi. Vous pouvez dire ça si vous venez du Nord aussi. Voilà, tout de suite, le Nord, ça charrie un imaginaire prolétaire.
D'ailleurs, j'en profite pour rebondir, mais j'ai lu récemment l'idée de transfuge géographique aussi. Voilà. Donc, c'est comme si les origines géographiques se substituaient aux origines sociales. Et tu fais bien de le dire parce que, effectivement, ça fait écho quand on parle de ces origines sociales. Même, je pense aussi au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui revendiquent leurs origines géographiques et sociales, mais une fois qu'ils ont percé aussi pour. Soit parce qu'ils avaient honte avant, mais aussi pour se tirer la couverture, pour montrer qu'ils ont gravi les échelons tout seuls, etc. Donc, il y a évidemment des rapports de domination au sein même des territoires ruraux. Et c'est pas forcément. Il y a aussi des fils de médecins dans les campagnes. Donc, je termine juste pour les. Sur les néo-ruraux, si on a cette impression aussi de ne voir dans la presse que des néo-ruraux bobos, j'ai bifurqué pour aller faire de la permaculture dans la Drôme, etc. C'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont accès aux médias, qui peuvent se permettre de faire d'allers-retours à Paris et qui ont intégré aussi un langage qui fait qu'ils arrivent à s'adresser à la presse, quoi. Carnet de campagne, c'est la majorité, et je ne l'invente pas, c'est Dorothée Barba qui l'a dit en conférence. C'est beaucoup de Parisiens qui se sont installés à la campagne et qui sont plutôt bourgeois et qui ont tout un vocabulaire, des codes pour pouvoir parler dans la presse et qui arrivent à valoriser ce qu'ils font, quoi. Alors que certaines pratiques réalisées par des ruraux eux-mêmes sont invisibilisées ou sont pas du tout théorisées, quoi. Voilà, c'est la fameuse conceptualisation, c'est-à-dire on va apposer des concepts sur des trucs qui existent déjà.
Merci beaucoup à vous deux. Avant de passer à notre prochaine thématique, on voulait un peu ouvrir à vous si vous avez une question sur cette question de l'urban gaze et conflits ruraux, néo-ruraux. N'hésitez pas, c'est participatif.
Éventuellement, moi, sur la question... merci. Bonsoir. Sur la question du capital culturel, moi je fais un lien entre ce que vous dites et un peu ma trajectoire qui est différente pour le coup, parce que moi je viens de banlieue parisienne, donc des banlieues, et j'ai fait un passage à l'université qui a fait que j'ai monté en capital légitime, et aujourd'hui j'habite à Ménilmontant, donc mes codes aussi ont un peu changé, et c'est vrai que quand je reviens, et j'y habite toujours un petit peu, mais quand je reviens voir ma famille ou quoi, je vois que les codes ont changé. Et je vois qu'on me regarde, on me perçoit différemment, et c'est presque comme si j'étais un étranger chez moi, quoi. Et donc, je pense que il y a cette question du capital, en fait, qui est centrale dans ce qu'on peut désigner comme bobo ou néo-ruraux. C'est des gens qu'on peut percevoir comme ayant des codes différents, et donc on va qualifier d'une manière différente, mais effectivement, sans avoir la lecture de classe qui fait qu'on pourrait les considérer beaucoup plus semblables que nous qui ne le sont, quoi.
Non, mais je pense que si la question des clivages culturels au sein de la population, y compris au sein de la classe travailleuse en général, dans sa diversité géographique, sociale, etc., si ça fait autant écho et qu'on s'approprie autant ces termes, les termes de bobo, les termes de banlieue, y compris dans notre vie quotidienne, c'est parce que ça fait écho effectivement à des expériences personnelles. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que moi je pense que ces expériences personnelles-là, elles sont réelles. L'effet de décalage qu'on ressent quand tu vas, par exemple, dans une grande ville ou à l'université, et que tu reviens dans ton milieu d'origine, et que du coup tu as fait quand même une petite mobilité sociale, et ben très vite, en fait, tu te sens en décalage. Et ce décalage-là, alors il y a toute une littérature sur la question, donc je vais pas développer. Moi aussi, je l'ai ressenti. Je pense que tu as dû le ressentir. Sentir aussi Emma, et je pense que ça c'est un sujet important, c'est que faut arriver à se dire que moi ce que je prône c'est oui ces différences existent là, très vite on adopte d'autres codes, d'autres façons de parler, d'autres façons de se vêtir, etc. Mais pourtant, moi je pense qu'il faut se concentrer sur nos points communs et être conscient de ces différences là, mais pas les exacerber, et de se dire malgré tout en fait il y a quand même beaucoup de choses qui nous lient dans notre rapport à l'exploitation au travail, dans notre rapport à la galère, dans notre rapport au logement. En fait, on a beaucoup plus de points communs qu'on le croit, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a aucune différence par ailleurs, quoi. Moi, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire à Frustration Magazine, en tout cas, c'est d'avoir un discours, de trouver le grand dénominateur commun, sans être dans un discours qui va noyer ces différences culturelles réelles et qui peuvent créer aussi des troubles intimes, au sens où ce décalage-là, par moment, il peut nous éloigner des gens qu'on aime, quoi. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Quelqu'un comme Rose Lamy, elle l'a bien expliqué dans son livre Ascendant Beauf, quoi. Comment, moi, je pense que c'est aussi lié beaucoup à notre système scolaire et à notre système universitaire. Et alors, selon la formation que vous faites, ça va être plus ou moins violent. Et moi, je me souviens vraiment, moi, j'ai fait une classe préparatoire à Bordeaux, dans un lycée prestigieux, etc. Et moi, j'ai vraiment vécu ça comme un apprentissage du mépris social, quoi. C'est-à-dire qu'on te disait de lâcher tes origines. Et pourtant, moi, je venais pas du prolétariat, etc. Je venais vraiment de la classe moyenne plutôt aisée et tout. Mais même le moindre décalage était traqué et fallait surtout que tu adoptes d'autres codes, à savoir les codes de la bourgeoisie. Moi, je me souviens parce qu'on nous avait dit il faut que tu parles différemment, tu parles mal, alors ça allait, hein. Mais une prof nous avait dit il faut que vous écoutiez France Culture et que vous parliez comme sur France Culture, quoi. Ça, la façon de parler, c'est quelque chose qu'on nous demande de modeler très très vite dans les études supérieures. C'est en disant vous voulez accéder à un stade supérieur, et bien, il va falloir renier vos origines et ressentir un peu de mépris. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier parce que c'est quelque chose qui nous joue des tours personnellement et collectivement.
Oui, ça me fait penser à... Alors, j'ai complètement oublié son nom, je suis désolée, un sociologue là, qui parlait récemment. Et il évoquait pas le terme de transfuge, mais j'ai oublié pareil le nom, mais il disait transfuge, ça va être on se déplace d'une classe sociale à une autre. Et lui, il expliquait qu'au contraire, il avait pu évoluer dans plusieurs, et puis il pouvait être mouvant dans plusieurs classes sociales et tout. Mais du coup, il n'y avait pas cette déconnexion, ce détachement avec sa classe sociale d'origine, etc., ou son lieu d'origine. Et je trouve que c'est plus intéressant aussi, parce que ce que tu as pu ressentir en revenant dans ta famille, tu as pu aussi le ressentir en partant de ta famille, en arrivant ailleurs. Sauf qu'on a intériorisé le fait que les pratiques, les modes de vie dans les grandes villes, elles étaient supérieures et c'était la norme qu'il fallait avoir. Donc quand on revient, forcément, on vient un petit peu avec ce regard condescendant. Moi, je l'ai complètement eu, notamment sur le féminisme. En 2020, je me suis nourrie de toute une lecture féministe. Avec le recul, je me suis rendu compte plutôt très libérale, plutôt très urbaine et très bourgeoise, mais j'en avais pas du tout conscience. Et quand je suis revenue dans l'autre, je suis revenue entre guillemets, quand je me suis réinstallée, j'étais un petit peu snob sur ça, et je voulais leur apprendre tout le féminisme que j'avais appris. Je pensais qu'ils étaient en retard. Vraiment, j'avais intériorisé ça jusqu'à ce que je lise La Terre des Femmes de Maria Sanchez, qui a été un peu ma petite bible, où j'ai pour la première fois lu un livre qui parlait, c'est une femme andalouse, une autrice et vétérinaire qui écrit sur les femmes rurales, et où j'ai c'est pour la première fois je lisais un livre qui parlait des femmes qui m'ont avec à côté desquelles j'ai grandi, ma mère, mes grand-mères, etc. Et ça a été un choc, et c'est là où je me suis dit ah mais en fait on existe, on a des réalités, et surtout, en fait, nos actes sont éminemment politiques. Sauf que moi, je vois vraiment ça, cette différence, je trouve, entre les milieux militants à Paris et, on va dire, les pratiques et les modes de vie chez moi dans l'autre, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui théorisent et les autres qui les pratiquent. Et donc, on va souvent valoriser les gens qui arrivent à poser des mots et des concepts et des théories sur ce qu'ils vivent. Donc, tous les autres, même s'ils le pratiquent, s'ils n'arrivent pas à en parler, ça compte pas. Voilà, c'est ça. Et là, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est éminemment politique. Leur mode de vie, celle de mes grands-mères, sont éminemment anticapitalistes. C'est juste qu'elles ne l'ont pas formulé ainsi et qu'elles ne citent pas Bell Hooks et Bourdieu ou que sais-je. Et ben voilà, mais ça n'en est pas moins important. Et c'est là où j'ai aussi déconstruit aussi toutes mes idées reçues sur les gens qui m'entourent.
Comme vous l'avez tous les deux rappelé, les populations rurales, et y compris urbaines, elles sont profondément hétérogènes. Et il y a des logiques de domination avec des dominés et des dominants. Et justement, comment sortir un peu de cette vision géographique de lutte des classes pour adopter une grille de lecture qui soit profondément celle des rapports de domination et essayer de trouver justement ce dénominateur commun entre les populations rurales et urbaines dans une logique de lutte des classes et qui par ailleurs permettrait de battre en brèche le discours de l'extrême droite qui vise à établir cette distinction entre les deux.
Non, je pense que c'est... Voilà, comment on réhabilite un clivage de classe sans le faire par principe avec des grands termes abstraits. Je pense que faut, voilà, c'est trouver les dénominateurs communs dans des expériences quotidiennes. Il y a au moins trois expériences auxquelles je pense qui permettent ça en réalité et ça marche. C'est d'abord l'expérience du travail. En fait, l'expérience du travail, elle se ressemble énormément où qu'on soit géographiquement. Il y a des contraintes qui vont être différentes. Par exemple, en ce moment, ce qui rend l'expérience du travail particulièrement pénible dans les milieux ruraux, c'est le prix du carburant. Et c'est vrai qu'on voit bien que en Ile-de-France, c'est beaucoup moins un sujet parce qu'il y a un réseau de transport en commun qui permet quand même, même si la voiture n'est pas absente, en tout cas de procéder autrement. Mais je veux dire vraiment, là actuellement, avec le prix du carburant, il y a vraiment des métiers qui sont devenus impossibles à exercer. Ou en fait, faire votre métier vous fait perdre d'argent. Mais par contre, l'expérience de la galère au travail, l'expérience de l'exploitation au travail, c'est-à-dire le fait d'être soumis à des chefs, de ne pas réussir à vivre correctement de son travail, ça c'est une expérience extrêmement universelle qu'on trouve aussi bien en banlieue où vous avez un prolétariat très précarisé que dans le milieu rural où vous avez aussi un prolétariat très précarisé. Ça va pas forcément être les mêmes métiers, ça va pas forcément être les mêmes secteurs d'activité, mais en fait ça se passe exactement pareil. Et moi ce qui me frappe aussi c'est de voir à quel point le salariat français contemporain, il n'y a pas qu'en France, mais nous on est particulièrement grave parce qu'on a un taux de souffrance au travail qui est très élevé et on est quand même le pays le plus accidentogène mortellement d'Europe. En fait, il concerne maintenant beaucoup de catégories de salariés. C'est-à-dire que même les catégories cadres sont exposées à des niveaux de souffrance très importants. De telle sorte que cette expérience du travail, ça devient de plus en plus une expérience collective. Et moi, ça m'a frappé comment, quand je faisais des missions d'expertise ou de formation pour les représentants du personnel, ce qui a été un de mes métiers pendant longtemps, en fait, je pouvais aller dans n'importe quelle ville de France et dans n'importe quel secteur d'activité, je retrouvais les mêmes foutus DRH qui employaient les mêmes mots et qui mettaient en place les mêmes politiques. Et je retrouvais les mêmes salariés qui étaient dans le même état de dépression existentielle profonde et de troubles anxieux généralisés, que ce soit à Blois, que ce soit à Marseille, que ce soit à La Défense, vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas conscience d'à quel point leur expérience était universelle, enfin en tout cas très universelle, et que souvent ils disaient « Oui, dans notre entreprise, dans ce secteur-là, on a cette contrainte, il faut être dans la surperformance. » Ah oui, non, mais c'est pas que ce secteur-là, croyez-moi. Mais voilà, la deuxième expérience, c'est l'expérience du logement. L'expérience du logement, ça devient aussi un énorme problème qu'on retrouve en fait dans les métropoles très particulièrement, avec des expériences de relégation successives de plus en plus loin, où en fait... tout le monde devient un peu l'ennemi de tout le monde, alors même qu'on a un ennemi commun qui sont les multipropriétaires, les banques et les bailleurs. Concrètement, le cycle qu'on trouve en Ile-de-France, mais qu'on trouve aussi ailleurs, c'est les centres deviennent extrêmement chers, deviennent réservés aux activités touristiques ou à l'habitation dite de prestige, comme disent les agences immobilières. Et puis, en fait, l'approche banlieue devient l'endroit où les classes moyennes urbaines se mettent à vivre. Du coup, leur arrivée fait partir, parce qu'elles font augmenter le prix de l'immobilier, les classes travailleuses plus précaires encore plus loin. Et puis dans le monde rural c'est pareil, alors la problématique qui émerge beaucoup dans des régions touristiques et il y a beaucoup de régions touristiques en France, c'est le fait que le logement devient réservé à la location ou aux résidences secondaires, et donc en fait pareil, il y a des mécanismes de relégation avec cette expérience que le logement c'est une galère pas possible. Je pense qu'Emma, toi aussi tu as tous ces exemples de potes qui vont consacrer tout leur temps libre et tout leur week-end à retaper une maison qu'ils ont réussi à s'acheter mais qui est dans un état lamentable. Donc très bien, ils deviennent tous maçons, menuisiers, etc. En perdant tout leur temps libre au profit de réussir à se loger en fait dans globalement l'endroit où ils ont grandi. Et c'est ça le rêve qu'on nous propose, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et puis la troisième expérience, qui est aussi en fait une expérience qui transcende les clivages géographiques, c'est l'expérience de la santé, quoi. Un système de santé publique qui s'est dégradé, une désertification médicale qui a été organisée et par l'État et par les professions médicales elles-mêmes, qui font que les déserts médicaux, vous en trouvez aussi bien en Seine-Saint-Denis qu'en Charente-Maritime, que dans la Creuse, qu'à Marseille. Et donc en fait, cette expérience-là de la rareté médicale, du tri des patients, etc., c'est aussi une expérience très majoritaire qui concerne la plupart des classes sociales, excepté en fait les classes privilégiées, qui, elles, ont les moyens d'avoir un système de santé parallèle. Donc, en fait, si tu prends ces trois expériences-là, bah en fait, tu peux avoir un discours qui peut être entendu, entendable à beaucoup d'endroits de la société et qui peut être entendable ici même en réalité. Enfin, ce que je vous raconte, ce n'est pas délirant quand bien même on est dans le 20e arrondissement, mais ça pourrait être le cas aussi ailleurs, ça pourrait être le cas à Orléans, ça pourrait être le cas à Saintes et ça pourrait être le cas à Cahors, quoi, il me semble.
Oui, totalement, je partage 100%. Et pour le logement, je ne comprends pas qu'en 2026, on ne y ait pas plus de colère contre les maisons secondaires. Enfin, les maisons secondaires, c'est quand même là, pour le coup, très urban gaze, parce que c'est un truc qui est complètement banalisé à droite comme à gauche. Voilà. Que des gens utilisent des logements dans les campagnes pour venir juste 2 mois dans l'année. Et c'est voilà. Donc, ce qu'on appelle les volets fermés, et voilà, on arrive bien à les distinguer des résidences principales, parce qu'en général, l'herbe est toujours très très bien taillée, parce qu'il donne un petit billet au fils du voisin pour venir passer le rotofil. Donc, il y a pas mal de trucs pour vérifier un petit peu si c'est des maisons secondaires, mais à quel moment c'est encore banalisé les maisons secondaires. Enfin, c'est la plupart de mes amis n'arrivent pas à se loger, ne peuvent pas se loger. On a été obligé d'héberger 2 amis pendant 8 mois là avec ma sœur, à cause voilà aussi du phénomène des résidences secondaires ou du meublé touristique. Ouais. Petite parenthèse, mais ça me tenait à cœur de le rappeler. Et bon, t'as parlé beaucoup des classes populaires. Moi, je voulais parler aussi des intérêts. Qu'en fait, il faut quand même se rendre compte que les classes dominantes des campagnes ont des intérêts en commun avec les classes dominantes des villes. Et ça, c'est tout le temps la même chose. Je pense notamment à la FNSEA qui est composée notamment, dont les leaders sont quand même majoritairement des crocs. Enfin, c'est même pas des agriculteurs, pardon, c'est des industriels.
Emma, tu peux peut-être rappeler ce que c'est la FNSEA?
La FNSEA, c'est le syndicat majoritaire qui prône une agriculture productiviste, a voté pour la loi du plomb, donc la réintroduction de certains pesticides, etc. Et qui est à la tête donc de la majorité des chambres d'agriculture. Et donc qui gouverne un petit peu par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, en fait, qui est dirigé par la FNSEA indirectement. Et donc ça c'est pour ça aussi que moi j'ai commencé à parler d'urban gaze, parce que je suis issue d'une famille d'agriculteurs et agricultrices. Je ne me retrouvais absolument pas dans les discours, dans les représentations des agriculteurs et agricultrices, et notamment voilà cette espèce de binarité entre d'un côté les néo-paysans de la conf et les méchants de la FNSEA, ou alors au contraire les gentils de la FNSEA qui sont pauvres parce qu'agriculteurs alors que c'est faux, bref. Donc la FNSEA par exemple a tout à y gagner, les leaders de la FNSEA ont tout à y gagner de s'allier avec les leaders les leaders politiques actuels. Je pense à la Fédération de la Chasse aussi, dont quand même la majorité des pratiquants sont plutôt des CSP+ venus des villes moyennes de proximité. Je pense aussi à par exemple ce qu'on constate beaucoup, c'est que les personnes qui sont à la tête de nos collectivités territoriales comme le département, etc., vont vouer un culte aux bourgeois venus des villes. Donc ils vont les accueillir à bras ouverts, notamment pour alors dans l'autre il les adore, il est bichonne. Ils ont créé carrément un pôle d'attractivité territoriale qui s'appelle Oh My Lot, donc c'est en anglais, parce que ça va attirer plus les gens qui travaillent dans les open space. Et donc l'idée, c'est de faire venir des cadres ingénieurs pour venir redynamiser le Lot, parce que nous on est trop bêtes pour savoir ce qu'il nous faudrait. En fait, c'est juste qu'on n'a pas d'argent, et donc eux ils vont venir, en plus ils vont investir. L'exemple en date, c'est par exemple vendre des terres agricoles à un homme qui s'appelle Edouard Carl, qui est multimilliardaire et qui veut construire un éco-golf pour redynamiser le village. Et alors là, le département, etc., va avoir tendance à signer, et on trouve ça trop bien parce que eux, au moins ils vont investir, quoi. Plus besoin d'argent public. Bon, pour leur défense aussi, ils ont de moins en moins d'argent dans les collectivités. Mais voilà, ou alors Total Énergie qui va débarquer pour créer un parc photovoltaïque et qui va nous voilà. Et donc il y a cette opposition entre des locaux qui veulent pas qu'il y ait un parc solaire à la place des terres agricoles qui seraient anti-écologiques face à Total Énergie qui serait écologique. Non mais c'est lunaire, et en fait eux-mêmes ils vont récupérer ce discours-là en disant non mais en fait les panneaux vont permettre aussi de protéger les cultures des aléas climatiques que eux-mêmes provoquent. Enfin non mais c'est lunaire, mais en fait c'est la réalité, c'est que les dominants des villes ou des campagnes s'allient là, ont des intérêts communs, c'est des intérêts capitalistes toujours. Et voilà, donc il faut bien avoir ça en tête et déconstruire aussi toutes les idées de fracture qu'on a évoquées juste avant.
Merci. Comment vous pensez qu'on pourrait tisser un lien entre les classes ouvrières des ruralités et les classes ouvrières des villes, notamment pour éviter le type de formule la France des bourgs et la France des tours en opposition? Est-ce qu'une stratégie réellement populaire sur le logement, ça pourrait être une des réponses? Et sinon, est-ce que les mobilisations de septembre, donc du 10 septembre, étaient un peu une première vague d'une potentielle alliance entre ces deux classes?
Non mais moi ça va être très court sur ce sujet, donc je te laisse Nicolas à la suite. Mais en gros, sur cette pseudo-opposition en fait, ce qu'on met en avant avec beaucoup de confrères et consoeurs qui travaillent sur les ruralités, c'est au contraire les points communs qu'il y a entre les modes de vie des campagnes et les modes de vie des quartiers populaires. Quand on parle de débrouille rurale, c'est-à-dire les modes de vie écolo, par exemple, les actes écolo, ça va être par exemple ne pas de donner les habits de son enfant aux voisins du coin pour éviter de racheter des vêtements, ça va être à travers la subsistance, c'est-à-dire essayer d'être autosuffisant ou de faire des économies d'énergie, etc. Il y a plein de points en commun. Et c'est là aussi, c'est ce qu'on essaie de rendre compte par rapport en amont des élections, c'est que on a plus de points en commun avec les gens qui vivent, notamment aussi par rapport à la mobilité. Moi, je parle beaucoup de la voiture, l'importance de la voiture comme lieu de mobilité, mais comme lieu aussi social, parce que quand on est adolescent et que, par exemple, on va flirter ou se faire des amis, ça va pas être chez ses parents, ça va être dans la voiture. Et ça va être la même chose dans certains quartiers populaires. Donc, en fait, tous les points communs entre une jeunesse des quartiers populaires, une jeunesse des campagnes populaires, etc., mettre ça en évidence plutôt que de montrer les divergences, etc. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus de points en commun avec les quartiers populaires dans la manière dont on a grandi ou dans les modes de vie qu'avec les centres bourgeois parisiens.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les questions de mobilité. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais un bourgeois de la mobilité parce que j'avais un scooter. Ouais. Et donc, ça, c'était un énorme privilège. La question classique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour renverser la bourgeoisie, hein ? On y revient. C'est la question qu'il faut se poser, effectivement. Parce que bon, la classe politique, elle va plutôt nous proposer plein de solutions pour s'affronter mutuellement, etc. Et globalement, la voie qui monte, c'est plutôt la voie du fascisme. Donc c'est comment on se fait pour se débarrasser de certains groupes de personnes, parce que ça va résoudre tout un tas de nos problèmes. Donc évidemment, c'est pas du tout la perspective qu'on partage. Le problème, c'est l'accaparement de la bourgeoisie sur notre travail et sur nos besoins fondamentaux. Comment on fait à partir de là? Effectivement, un des problèmes auxquels ça a pu se heurter, notamment le mouvement ouvrier, donc le mouvement ouvrier qui a été au XXe siècle le principal protagoniste de cette lutte-là, ça a été notamment des différences géographiques. Donc en fait, c'est bien qu'on parle des différences géographiques, parce que ça a quand même été un talon, un caillou dans la chaussure du mouvement ouvrier et des mouvements révolutionnaires en général. C'est-à-dire que dans l'histoire révolutionnaire, on a des mouvements révolutionnaires qui parfois ont été très urbains, et c'est le clivage urbain-rural instrumentalisée par la bourgeoisie et par l'aristocratie qui a empêché des révolutions d'advenir. Donc là, on en a un des exemples. D'ailleurs, on est géographiquement situé dans un des coins, un des points très importants de la Commune de Paris, qui a été quand même la première et la plus grande révolution prolétarienne et socialiste qu'on ait connue en France, qui a été un échec. Et cet échec, il est lié notamment au fait que la Commune de Paris, donc c'est pour mémoire, ça se passe en 1871. Vous avez, au terme donc d'une invasion prussienne qui contrôlait le nord de la France et le nord de Paris, la capitale qui se soulève. Elle se soulève pas parce que c'était Paris, mais parce que c'était une des villes les plus ouvrières du pays et qu'elle avait voté aux élections municipales pour la République, tandis que la France rurale avait voté pour la monarchie. Et donc là, en fait, vous avez un vrai clivage territorial qui aboutit à une sécession de Paris et des tentatives de sécession à Lyon, notamment, aussi à Bordeaux. Donc en fait, pour instaurer des gouvernements socialistes et prolétariens, le gouvernement de Paris a duré plusieurs semaines et notamment les combats ont fini dans le 20e arrondissement. Vous avez une célèbre photo dont j'ai découvert une des rares photos de la Commune de Paris où vous voyez des gens fièrement perchés sur une barricade. Et en fait, la barricade, elle est tout en bas au niveau du métro Ménilmontant, en fait, au début de cette rue. Voilà, pour la petite curiosité touristique. Et vraiment, moi, je suis souvent passé par là et j'avais jamais vu. Et c'est fou parce que quand vous regardez la photo, les bâtiments n'ont pas beaucoup changé. Comme quoi, ce serait possible de refaire la même. Mais non, il faudrait pas parce que ça a été quand même une défaite retentissante. Et en fait, ça a reposé beaucoup sur l'instrumentalisation par la bourgeoisie et l'aristocratie qui, à l'époque, étaient alliées. Elles le sont, elles les toujours, d'ailleurs, puisque notre aristocratie se porte assez bien, notre noblesse. Et en fait, ils ont réussi à retourner la France rurale contre la France ouvrière, donc la France des champs contre la France des villes. Et littéralement, l'armée qui a été envoyée pour réprimer la Commune de Paris, elle a été recrutée dans la France des campagnes. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est d'histoire ancienne, c'était en 1871, les paramètres sociaux ont changé depuis, et d'ailleurs à l'époque, le clivage territorial, il était bien plus fort que maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, un des cailloux dans la botte, dans la chaussure du mouvement ouvrier, c'est qu'en fait, les ouvriers, c'était assez peu de monde et c'était très concentré géographiquement, et le reste, c'était la paysannerie. Donc, c'était pas du tout la même classe. C'était des gens qui étaient exploités, mais qui avaient vraiment des modes de fonctionnement très différents. Or, maintenant, la paysannerie, c'est une classe très, très minoritaire, très clivée. Et puis, l'expérience majoritaire en France comme ailleurs, c'est le salariat. Hein. 80% des actifs, ils sont salariés. Donc, en fait, on a des expériences qui sont très, très communes, beaucoup plus communes qu'au 19e siècle. Je dis ça parce que souvent on se dit de nos jours c'est mort parce qu'on est atomisé, on est trop différent, il n'y a plus de grandes usines, etc. Mais tout va bien. Au moment où la lutte des classes a été théorisée, il n'y avait pas de grandes usines, c'était aussi très éclaté. Vraiment, à l'époque de Marx, il n'y avait pas de grandes entreprises. Hein. La plupart des gens, d'ailleurs, ils travaillaient de chez eux. La confection ouvrière, c'était en fait vous travailliez, vous fournissiez des pièces pour des manufactures et vous y allez les porter, hein, notamment dans le textile. Donc en fait, la classe ouvrière, la classe travailleuse, elle a toujours été atomisée, juste elle l'a été de façon différente. Par contre, elle a été organisée à des moments mieux que maintenant. Ça n'a échappé à personne. Donc en fait, la question, et que beaucoup de gens se posent maintenant, et tant mieux, c'est la question de l'organisation du mouvement social, l'organisation, et là, ça, qui va au-delà de la question des partis politiques, c'est comment on s'organise en tant que classe qui, dans sa diversité, a des intérêts communs. Et en fait, organiser des gens qui, dans leur diversité, ont des intérêts communs, ça nécessite de se coller au problème de la diversité, et notamment de la diversité géographique. Et donc, c'est vrai que, puisqu'il y a eu, alors, ça a été très monté en épingle, comme Emma l'a dit, mais il y a eu une insistance sur les clivages géographiques, notamment sur le plan électoral, bon, il y a beaucoup de militants de gauche qui se sont dit, notamment après les législatives qui nous ont évité la victoire du RN, mais en fait qui règne hein, de fait dans ce pays, puisque le macronisme s'est converti à une idéologie d'extrême droite très fortement. Mais bon, à l'époque, on pensait s'être protégé de ça. Bon, il y a eu tout un mouvement qui a consisté à dire « Ok, les militants branchouilles des centres-villes de gauche doivent aller dans les campagnes pour dire aux campagnards que l'extrême droite, c'est mal. » Alors attention avec ça. Je pense depuis, il y a eu réflexion, mais ne faites pas ça. C'est-à-dire que il faut pas se mettre dans une posture de ce que Emma, tu appelles le syndrome du sauveur urbain. C'est-à-dire, moi qui ai lu beaucoup de livres et qui vis dans le centre de Paris, je débarque dans un village dont je ne connais pas le nom, où tout me semble mort et fermé. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que dans la France rurale, dans la France des petites villes, les lieux de sociabilité sont moins évidents, ils sont moins marqués. Mais vous inquiétez pas, les gens se parlent, ils se reçoivent, on fait des fêtes chez nous, en fait, le plus souvent. Mais donc tout va bien, il y a quand même du lien, etc. etc. Il y a des associations, d'ailleurs il y en a souvent énormément. Donc en fait cette idée que j'arrive comme une sorte de terra incognitae et puis hop, je viens apprendre la science de la lutte des classes aux gens, ça ne marche pas. En fait, et donc il faut vraiment se méfier de cette posture-là, et cette posture-là un peu conquérante, un peu coloniale, elle existe beaucoup dans la gauche française, ça a été beaucoup critiqué notamment dans les quartiers populaires, parce qu'on a une gauche qui s'est comportée avec les quartiers populaires, donc avec les banlieues, comme avec des clientèles politiques qu'il fallait prendre de haut, qu'il fallait valoriser, mais qu'il fallait pas leur donner trop de pouvoir non plus, et c'est un peu pareil avec les petites villes, quoi. Parce qu'en fait, on a encore une classe politique qui est extrêmement centralisée sur Paris. C'est très simple. D'ailleurs, tous les sièges de partis politiques, y compris de gauche, sont à Paris. Et d'ailleurs, souvent, sont à Paris intramuros. Il y a quelques exceptions. Mais donc ça, vous voyez, c'est quand même pas neutre. Et c'est pareil. Les syndicats sont en Ile-de-France. Les médias, y compris alternatifs, sont à Paris, sont en Ile-de-France. Et donc, en fait, du coup, vous avez vite fait d'avoir, en fait, de recréer ce clivage-là par la façon dont on s'organise, à savoir, vous avez des petits comités locaux, et puis ils en réfèrent à Paris. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelques leaders politiques qui sont exprimés là-dessus. Moi, j'en avais parlé dans un de mes bouquins. Il y avait Philippe Poutou qui expliquait. Donc, Philippe Poutou, qui maintenant il a une librairie à Bordeaux, mais longtemps il était ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort, donc à côté de Bordeaux. C'était le candidat du NPA. Et à un moment, il avait un peu claqué la porte provisoirement. Et une de ses raisons, c'est qu'il disait en fait, les gars, j'en ai marre de me farcir les 3 heures de TGV pour monter à Paris, de dormir sur le canapé d'un copain, en gros, et pour me faire des réunions qui durent jusqu'à 20 heures, jusqu'à minuit, etc. Et vous prenez pas en compte le fait que en fait c'est compliqué quoi. Et ça c'est vrai que c'est quand même un énorme problème du militantisme, mais qu'il soit politique, qu'il soit syndical et même celui du mouvement social, où en fait moi ce que je constate toujours, c'est qu'il y a un peu ce réflexe place de la République quoi, où on dit tant qu'un mouvement n'a pas eu lieu sur la place de la République, il n'existe pas quoi. Et donc en fait c'est un problème, pas parce qu'il ne faut pas se réunir place de la République, effectivement c'est quand même très efficace, ça donne des belles images, mais parce qu'ensuite on encourage la paresse journalistique qui consiste à ne parler d'un événement que quand il a lieu à Paris. Donc il ne faut pas encourager cette dynamique. Et donc tu me posais la question des différents mouvements sociaux qui ont eu lieu. Heureusement, il y a des choses qui se sont passées, qui ont fait bouger les lignes. La première, c'est le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui a été, pour le coup, extrêmement décentralisé, puisqu'il a eu lieu sur des ronds-points de littéralement toutes les villes et villages de France. Et Paris, pour le mouvement des Gilets jaunes, ça a été d'abord un lieu pour attaquer la bourgeoisie, pas pour se réunir. Et d'ailleurs, la police ne s'y est pas trompée, puisque quand les choses ont commencé à dégénérer en décembre, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient cueillir à la sortie des gares tous les gens qui n'avaient pas l'air parisiens. Alors, je me demandais un autre type de contrôle aux faciès. Et qui venaient de banlieue également, ça, ils sont plus habitués à le faire. Mais il y avait cette idée que, Paris, c'est là où se trouvent les centres de pouvoir, donc on va empêcher les gens d'y aller. Mais et ensuite, il y a eu d'autres tentatives. Une des tentatives intéressantes, très récente, c'est le mouvement du 10 septembre. Le mouvement du 10 septembre, c'est un mouvement un peu paradoxal, parce qu'il a produit des effets avant qu'il soit arrivé. Et une fois qu'il a eu lieu, il a pu produire des faits. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a fait peur à la classe dominante, parce qu'ils se sont dit « Ouh là 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 là, c'est le retour des Gilets jaunes ». Il y avait des rapports des renseignements territoriaux, donc qui sont le renseignement intérieur et qui ont des délégations, qui ont des agents un peu partout dans toutes ces villes de France, dans toutes ces préfectures et sous-préfectures, qui ont fait remonter des rapports au cours du mois de juillet et d'août dernier, en disant « Attention, il y a un truc qui les ont alarmés. Moi, si vous voulez savoir comment nuire à la bourgeoisie, il faut regarder ce qui lui fait peur. » Donc moi, je lis beaucoup la presse patronale, je lis beaucoup quand il y a les rapports des renseignements territoriaux, parce qu'on voit c'est quoi qu'ils craignent. Et alors, ce qu'ils ont craint, à ce moment-là, sur le mouvement du 10 septembre. D'abord, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand ils ne savent pas d'avance à qui ils ont affaire. C'est-à-dire, quand c'est les syndicats habituels, quand c'est les partis habituels, ils sont là, ok, c'est les gauchos classiques, on sait les gérer, on sait quel va être le parcours. République, Bastille, Nation, à Sainte, c'est rendez-vous au palais de justice à 10h30, fin de la manif à 12h30, au parc des expositions, tranquillou. Le parcours passe par la rocade, il est vite, il est même pas vu. Donc ça, ils aiment bien. Donc ils n'aiment pas quand ils ne savent pas qui ils sont. Donc généralement, ils envoient une tripotée de sociologues, de fondations type Jean Jaurès, etc., qui vont sur les plateaux télé pour dire « on a étudié les boucs télégrammes, mais en fait, c'est ça ». Mais là, ce que les renseignements territoriaux ont dit, et qui les a alarmés profondément, c'est qu'ils ont dit « le problème, c'est que le mouvement est partout ». Il est très représenté, notamment dans les petites villes et les villages. Et ça, ils n'ont pas trop aimé, parce que comme ils ont besoin de nous diviser, ils auraient préféré que ça soit un mouvement parisien, un mouvement de centre-ville classique, et qu'ils puissent ensuite nous opposer en disant « Regardez, c'est les bobos de Nuit Debout, alors que vous, vous êtes la France qui travaille. » Ce qui est un move classique, et ce qui n'est pas vrai, par ailleurs. Mais ils vont insister sur ces différences géographiques, culturelles, en les transformant en différences de classe. Alors que là, le mouvement du 10 septembre, effectivement, il a été partout. Et quand c'est partout, ça leur pose aussi un problème de maintien de l'ordre. C'est que concrètement, bon, ça vous aurait pas échappé qu'en France, depuis 10 ans, on a basculé dans un vrai régime autoritaire qui a un usage extensif des forces de police. Et cet usage donc répressif et extensif des forces de police, bon, bah, il n'est pas inépuisable non plus, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont un certain nombre d'effectifs, il faut qu'ils les envoient partout. Et la question, c'est est-ce qu'ils peuvent les envoyer absolument partout quand un mouvement a lieu absolument partout ? Donc pour eux, ça les arrange d'avoir des manifs qui sont, ou des mouvements émeutiers même, qui sont centrés dans Paris. Puisque Paris, on le sait, a été remembré architecturalement à la fin au milieu du 19e siècle par notamment le préfet Haussmann, dans un objectif, alors certes de salubrité publique, etc., mais aussi de maintien de l'ordre. Donc voilà, la place de la nation est littéralement faite pour que les manifs y terminent et qu'on puisse fermer les entrées et puis gazer tout le monde, allez, zou. Donc en fait, l'extension géographique d'un mouvement social, c'est un problème pour la classe dominante et c'est pour ça que c'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Le mouvement du 10 septembre, pour finir là-dessus, il a péché par un certain nombre de choses, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on apprend, on essaye, on tente des trucs et franchement, ça a été un essai très concluant puisque c'est quand même 500 000 personnes qui se sont mobilisées absolument partout en France sur un mot d'ordre de « on fait pas ce qu'on fait habituellement, on déborde ». Et 500 000 personnes ont débordé en prenant des risques importants. Effectivement, il y a eu des faiblesses. C'est que quand je dis il y a eu, c'était partout, bah, en fait, ça a été surtout... il y a une surreprésentation quand même de l'ouest de la France. Il y a une sous-représentation des quartiers populaires. Dans les grandes villes, du coup, les gens ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Il y a eu une très forte répression policière qui fait qu'en fait, certaines tentatives ont été tuées dans l'œuf, notamment sur le périphérique parisien, etc. Mais globalement, il y a eu une tentative, quoi. Et il y a une tentative, et il y a une tentative de dépassement des formes traditionnelles, des formes parisianisées, des formes exclusives socialement de mobilisation. Et ce mouvement-là, bah, je pense qu'il faut l'amplifier. Et franchement, on progresse. Depuis 2018, on progresse. On a l'impression, là, en ce moment, on est dans une période très dure. Voilà, mais parce que bah, on est obsédé par le temps court et qu'actuellement, on vit quand même un contexte international extrêmement pesant. Donc là, on a l'impression de surtout vivre des défaites, mais il faut se dire qu'on vit aussi beaucoup de tentatives, on vit beaucoup d'essais. Et voilà, être, en tout cas, faire des tentatives révolutionnaires, c'est essayer des choses. Voilà.
Et peut-être, mais tu m'arrêtes si je me trompe, je trouvais qu'il y avait un autre mouvement qui était intéressant, c'est la contestation des agriculteurs et agricultrices. Parce que moi, ça m'a fait un peu penser quand même aux Gilets jaunes, parce que sur les ronds-points se sont retrouvés des classes pop plutôt de gauche et des classes pop plutôt d'extrême droite. Je pense à la Confédération paysanne, pour grossir le trait, et la Coordination rurale, qui avaient quand même un objectif commun, c'était de faire tomber le libéralisme. Et je trouve qu'il y a quand même des points en commun à tirer. Par exemple, j'ai l'impression que la Coordination rurale, quand même, qui, c'est vrai, et je parle pas des leaders, bien sûr, les leaders qui sont... d'extrême droite, convaincus, idéologiquement convaincus, etc. Mais je parle de certains des nouveaux adhérents là qui en fait ont été des dégoûtés de la FNSEA et du libéralisme et des gros écarts de revenus entre les énormes agriculteurs et les petits agriculteurs qui se sont tournés vers la Coordination rurale parce qu'ils ne se sentaient pas non plus hyper représentés, je pense aussi, dans la conf. Parce qu'ils sont pas forcément, ils ont pas forcément une agriculture paysanne ou bio, etc. Et aussi bah, des agriculteurs et agricultrices de la Confédération paysanne qui historiquement ont toujours été en lutte contre le néolibéralisme et l'industrialisation de l'agriculture. Voilà. Donc je trouve que c'était aussi intéressant parce qu'on savait pas trop à qui on avait affaire. Et c'est vrai que les flics. Bon, les bonnets jaunes aussi aidés de la Coordination rurale pour savoir sur qui taper ou pas. Mais voilà, on essayait de cibler plutôt ceux qui étaient mal coiffés de la conf. Mon frère est adhérent, donc je les salue, hein, mais c'est pas du tout pour caricaturer, si ça l'est. Mais voilà, et donc bien sûr, les forces de l'ordre ciblaient plutôt la conf que la Coordination rurale, qu'ils estimaient être des alliés, je pense. Voilà.
Emma, tu as cité la sociologue Fanny Hughes avec la question des débrouilles rurales. Et du coup, comment justement changer nos représentations et comment repolitiser un petit peu ces modes de résistance qui sont parfois passifs ou qu'on n'a pas conscientisés. Et justement, comment expérimenter ces modes de militantisme hors du cadre institutionnel et comment ils peuvent justement en quelque sorte, réussir à gagner dans la droite lignée un peu du 10 septembre.
Merci de poser la question. Et donc, je vais citer ma consoeur Fanny Hugues, qui est sociologue et qui a notamment théorisé le terme de débrouille rurale. En fait, les débrouilles rurales, ce sont des modes de vie pratiqués dans les territoires ruraux par ce qu'elle a appelé des modestes économes. Donc, c'est plutôt des classes populaires. Elle appelait modestes économes parce qu'ils sont modestes dans leur mode de vie, mais aussi dans leur manière de parler de leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils sont humbles et économes parce que c'est avant tout, en fait, ça va plutôt être des pratiques qui vont viser à faire des économies, mais qui sont en réalité éminemment écologiques et politiques. Et elle va montrer qu'en fait, des gens qui ne se revendiquent absolument pas écologiques et qui rejettent ce terme parce que l'écologie, ça va être associé à des pratiques écolo-dominantes, c'est-à-dire rouler à vélo, consommer du vrac dans l'épicerie locale du coin. Ces personnes-là vont pas du tout avoir ces pratiques-là, et donc ils vont intérioriser le fait qu'elles sont pas forcément écolo, parce que en fait, elle ne colle pas aux représentations dominantes dans les médias et dans la société de l'écologie. Mais ces personnes-là, à travers leur, par exemple, le fait qu'elles vont faire elles-mêmes leur bois de chauffe, qu'elles vont réutiliser les objets jusqu'à ne plus pouvoir les utiliser, qu'elles vont avoir des pratiques de subsistance à travers leur potager, à travers le fait de faire des conserves, mais qu'elles vont aussi, dans leur rapport aux voitures, en fait, choisir des voitures diesel et non pas électriques, non pas parce qu'elles veulent polluer, mais parce qu'elles veulent pouvoir les réparer, parce qu'aujourd'hui, en fait, les voitures récentes, il y a énormément d'électronique, et là, les personnes qui ont des connaissances en mécanique ne peuvent rien y faire. Là, il faut avoir des compétences en électronique, quoi. Et donc, en fait, ces personnes-là vont acheter des vieilles voitures pour pouvoir les réparer elles-mêmes, parce que c'est moins cher. Et souvent, c'est une image qui me plaît beaucoup, parce que c'est ce que je vois tout le temps. C'est le fait de, par exemple, aussi garder les voitures qui ne fonctionnent plus, soit parce qu'accidentées, soit parce que irréparables, dans le jardin ou dans un champ. Non mais voilà, moi il y en a 4 dans le jardin de ma mère. Je peux toutes les citer. Je connais toutes les situations à cause desquelles elles ne fonctionnent plus, mais en fait on les garde pour les pièces, voilà, pour changer. Donc en général on achète des Peugeot. Alors nous c'est les Peugeot dans la famille, je sais pas pourquoi. Et on les garde et on va acheter un modèle un peu similaire pour pouvoir garder les pièces de la voiture accidentée. Et en fait, c'est des pratiques qui sont économes et écolo. Voilà. Et donc, en fait, ces débrouilles rurales, ça évoque beaucoup aussi l'urban gaze, parce que c'est des pratiques éminemment anticapitalistes, mais qui ne disent pas leur nom, parce que c'est des gens qui vont pas forcément soit le conscientiser, soit trouver qu'ils ont quelque chose à voir avec les grands théoriciens de l'anticapitalisme à l'heure actuelle, ou en tout cas de l'écologie qui est plutôt bourgeoise et urbaine. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup son travail et qu'il fait écho au mien. C'est parce que c'est comme pour le féminisme. Moi, j'aime bien parler du féminisme rural. Alors, il y avait le terme écoféminisme qui est très bien, mais encore une fois, qui ne dit pas qu'il pratique cet écoféminisme. Je l'aime beaucoup, Françoise Daubonne, mais qui a grandi plutôt à Paris, qui a un point de vue bourgeois et situé. Et en fait, le féminisme rural, ça va être ce que décrit Maria Sanchez dans La Terre des Femmes, le fait, en fait, elle ne le théorise pas en tant que tel, mais leur mode de vie est éminemment féministe et anticapitaliste, parce que elles ont un mode de vie qui, pour reprendre les termes d'Aurélien Berland sur Terre et Liberté, vont fonder leur liberté sur le fait d'assurer ses propres les tâches essentielles à leur survie, c'est-à-dire qu'elles vont avoir les connaissances sur le soin, sur comment faire pousser des légumes, comment les conserver, comment s'occuper des personnes âgées, comment s'occuper des malades, etc. Et des pratiques qui aujourd'hui, selon un féminisme plus libéral, va consister à les déléguer, les sous-traiter à des travailleuses précaires. donc des femmes de ménage, des livreurs à domicile pour apporter le repas, des cuisinières, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que les débris ruraux, enfin l'écologie, le féminisme sont aujourd'hui plutôt décrits d'un point de vue bourgeois, urbain, très situé et qui va être le prisme dominant, alors que il y a tout un tas de pratiques et de modes de vie dans les campagnes qui sont complètement invisibilisés et c'est très important d'en parler aussi pour montrer d'autres modèles et pour les repolitiser.
Tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, je veux juste rajouter un petit truc. C'est vrai que du coup, bah, tu vois, tu parlais de la modestie de ces pratiques-là qui, en fait, ne vont pas être brandées en quelque sorte. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, en fait, les femmes dont tu parles, elles ne vont pas faire de page Instagram où elles vont pouvoir parler de leurs pratiques, etc. Et juste, j'avais une anecdote là-dessus parce que moi, ce qui me frappe, c'est comment, en fait, toutes les luttes, ça, c'est quand même un vrai problème, toutes ces luttes peuvent être ensuite monopolisées, monétisées par la bourgeoisie ou par la petite bourgeoisie. Et l'écologie a beaucoup souffert de ça, souffre encore beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont... Bon, maintenant, on parle des performative male, donc qui sont les mecs qui lisent Mona Chollet en public, si j'ai bien compris, dans un parc. Voilà, là, je suis à Paris, comme j'ai vachement cette notion en tête, j'ai essayé d'en voir et tout. J'en ai vu. et en fait, c'est intéressant, la notion de performance, quoi. C'est-à-dire, il y a une performance, tu mets en scène ton implication. Et en fait, il y a beaucoup ça sur l'écologie. Et j'avais juste une anecdote qui m'est revenue dans ma période maraîchage agricole. Là, j'avais fait une formation taille des arbres fruitiers. Les formations, elles avaient lieu dans des exploitations. Et il y avait une exploitation comme ça qui venait d'être fondée. Mais voilà, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. C'était l'exploitation parfaite. Comme dans les livres de permaculture, il y avait une mare avec un fond en argile de je sais plus où. Il y avait, voilà, un mixte de polyculture. C'était formidable. Leur concept, c'était de faire et de l'exploitation agricole et accroche-toi. C'était des chambres d'hôtes pour cadres un peu dépassés qui avaient besoin le matin de pouvoir aller cueillir leurs légumes pour se reconnecter à la terre. Bon. Concept douteux, mais je me souviens qu'ils m'avaient beaucoup impressionné parce qu'ils avaient vraiment un Instagram magnifique et tout. Le logo avait été fait par un de leurs potes designers, je sais pas quoi. Et en fait, j'avais parlé avec le tenancier de ça, qui ressemblait physiquement à Macron, ce qui n'aidait pas. Et c'était vraiment un type qui était là, ouais, non, mais voilà, faut se reconnecter aux vraies choses. Et vraiment, il savait pitcher, quoi. C'était quelqu'un qui savait pitcher, donc moi j'étais très impressionné. Et il m'avait fait tout un discours. Donc, déjà, bon, en fait, c'était un directeur financier d'un grand groupe du CAC 40 qui s'était reconverti dans cette ferme. Donc, sans doute pour en faire un nouveau business en réalité. Et à propos, donc il n'arrêtait pas d'avoir des grands mots sur l'écologie, c'est quand même très important. Tous les gestes comptent. Donc, moi je disais, oui, c'est vrai. Et là-dessus, il m'avait dit, tu vois, moi par exemple, d'un air vraiment pénétré, là je me disais, parole sage. Moi, j'ai des potes, ils continuent de faire un truc. Moi, je trouve qu'il faut arrêter de le faire. Moi, je dis, ah, il va me parler de, je sais pas, le tri des déchets ou quoi. Faut arrêter de se faire déposer en hélico sur des pistes de ski. Et je me disais, ah, d'accord. Donc, toi, tu pars de là. Donc, effectivement, ne plus le faire, pour toi, c'est de l'écologie. Bon, voilà, bah, c'est ça la performance, être capable de performer ses convictions, c'est quelque chose qui nécessite des compétences, et ces compétences, on les apprend plutôt dans certaines écoles que dans d'autres, tandis que dans les classes populaires, on apprend plutôt à ne pas la ramener, à pas dire les choses trop fort, à ne pas créer d'ennuis, etc., parce qu'on est beaucoup plus menacé. Donc voilà, c'était une petite anecdote permaculture.
Merci. Peut-être une dernière petite question avant de vous laisser parler et leur poser vos questions. Comme on est un collectif qui vient d'une école d'architecture, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agences d'archi et d'urbanisme qui sont basées à Paris et qui ont tendance à intervenir dans les territoires ruraux. Donc ça me fait penser au syndrome du sauveur urbain dont vous parliez tous les deux pendant notre discussion. Est-ce qu'il n'y a pas une injonction à certaines pratiques, notamment sur le sujet de la mobilité, à utiliser davantage le vélo que la voiture? Tu as parlé tout à l'heure de l'importance de la voiture. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Voilà.
Ouais, moi c'est quelque chose que je constate souvent à travers mon métier, mais aussi juste en tant qu'habitante, parce que je suis aussi impliquée dans la vie politique locale. On va beaucoup... alors, il y a les grandes tendances là, actuellement de la Macronie, c'est Petite Ville de Demain, les programmes Petite Ville de Demain, les programmes Action Cœur de Ville, qui vont consister à... appliquer tous les modes de vie urbains à des campagnes. C'est-à-dire que on va considérer qu'elles ne sont pas développées. Non, mais il y a vraiment un regard presque néocoloniale sur le fait que les campagnes sont sous-développées, on va venir les développer avec en appliquant nos modes de vie et nos manières de penser le territoire et l'aménagement du territoire. Et donc on va lancer des programmes à plusieurs millions et milliards pour redynamiser, c'est-à-dire apporter des commerces, des bars, parce que le lien social passe par les after work coworking. Mais en fait déjà laisser les services publics, parce qu'on va déshabiller les campagnes, mais après on va réinjecter des milliards d'euros pour essayer de faire en sorte que de maintenir les commerces. Et pour cela on va faire appel à souvent des bureaux d'études à Paris ou à Lille pour venir à l'Albinque, mon village dans le Lot, où ça n'est pas du tout la même topographie. Mais on part du principe que s'ils sont d'une grande école parisienne, ils connaissent mieux le territoire et on va complètement négliger la participation locale et le point de vue des professionnels du territoire qui y vivent. Aujourd'hui, heureusement, il y a d'autres méthodes comme la cartographie sensible ou la participation, etc. Mais globalement, ça va être ça, quoi. C'est comment métropoliser les campagnes. Comment, en fait, les rendre séduisantes pour des cadres urbains. Comment appliquer tous les codes des villes dans les territoires ruraux. Parce que c'est uniquement en devenant une ville qu'elles seront intéressantes. C'est le principe du développement. C'est comme on part du principe que qu'on a appris tout ça en géo, qu'il y a des pays sous-développés parce qu'ils ne ressemblent pas aux pays occidentaux, quoi. Et ça va être la même chose. Donc voilà, encore un regard très méprisant vu du dessus. Et pour la mobilité, ça va être la même chose. Voilà, tu parlais tout à l'heure des militants qui viennent. Moi, ça me fait penser que j'ai une amie qui était militante parisienne, pure parisienne, qui pendant les législatives anticipées m'a dit « Ouais, on veut venir dans le Lot, à vélo, en gravel, dans le train, pour aller faire du porte-à-porte et tout. » Donc j'ai dit « Le Lot n'est pas menacée par l'extrême droite, il faut regarder, mais comme c'était un des seuls territoires ruraux qu'elle connaissait, elle s'est dit bon, ça va être efficace, mais il fallait regarder quand même un petit peu les résultats et l'histoire politique. Et après, le gravel, non, mauvaise idée. Mais en tout cas, oui, sur la mobilité, effectivement, sur l'aménagement, je m'étonne toujours, là. On voit Emmanuel Grégoire, mais qui performative écolo, qui débarque en Vélib à la mairie. Mais ça ne pourrait pas arriver. Moi, les candidats aux législatives, ils ont fait campagne en deux chevaux pour celui de droite. Celui de gauche, il est avec une estafette. En fait, c'était qui a la voiture vintage la plus stylée, quoi, pour gagner. Mais ils avaient tous leur vieille voiture. Et aujourd'hui, ce qui a récupéré beaucoup, c'est le C15. Qui était l'utilitaire de mon grand-père, incassable. Et c'est pour ça que, et maintenant, récupéré par une partie de l'extrême droite, les jeunes et tout, qui voient un peu un symbole de la ruralité, etc. Bref, mais en tout cas, oui, pour la mobilité, je sais pas quoi dire. Moi, il faut venir dans le Lot pour voir comment c'est vallonné. Moi, j'aimerais me déplacer à vélo beaucoup plus. Mais déjà, en fait, est-ce qu'on peut parler du fait que, moi, pour me déplacer à vélo, il faut que je prenne des chemins. On parle toujours des vélos électriques, mais de ville. Mais mes pneus crèvent. Hein. Je voudrais qu'on puisse donner des chèques pour acheter des VTT électriques. Parce que nous, c'est notre seul moyen de nous déplacer de village à village. Il n'y a pas du tout de piste cyclable. C'est hyper vallonné. Et encore une fois, moi, je trouve qu'il y a un angle mort totalement sur les mobilités. C'est qu'on considère la voiture, encore une fois, comme un moyen de locomotion pour aller d'un point A à un point B, mais c'est tellement plus que ça. On n'aurait pas pu organiser 8 festivals dans ma vie sans nos chers véhicules qui sont à la fois des moyens pour faire de... Enfin, par exemple, l'essuie-glace, ce n'est pas juste un essuie-glace, c'est un moyen pour caler les petits flyers contre la voiture. La banquette arrière n'est pas juste une banquette arrière. Voilà, et la sono dans la voiture n'est pas juste un moyen pour écouter France Inter le matin. Voilà, donc il y a tout un angle mort sur l'utilité de la voiture sur à quel point elle pallie l'absence parfois de lieux de sociabilité ou pour les jeunes en tout cas. Donc il faudrait aussi mettre l'accent dessus. Et voilà, je passe le micro à Nicolas.
Oh, mais je suis bien d'accord sur la voiture, encore une fois. Alors, pour revenir sur ta question initiale, en fait, je pense qu'il y a deux un peu explications à ce problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un prisme culturel qui est de dire ces agences d'architecture, ces cabinets d'urbanisme qui débarquent dans les villes avec leur syndrome du sauveur urbain, ça pose problème parce qu'ils vont projeter des choses. Comme je le disais, il y a ce truc de quand tu arrives dans une ville, moi ça me frappe toujours, les gens veulent pas être méchants, mais quand ils viennent dans ma ville à Sainte, ils disent « Ah là là, c'est mort !» C'est toujours ce qu'on dit des petites villes, parce qu'en fait, les lieux de sociabilité, c'est sûr, moi quand je suis à Paris, je me dis « Waouh, dans Paris intramuros, tout est ouvert tout le temps, il y a beaucoup de bars. » En fait, la sociabilité, elle est visible parce qu'elle est dans la rue aussi, parce que les logements sont plus petits. Mais par exemple, nous, on a quand même un peu des logements tendanciellement plus grands. Donc en fait, la sociabilité, elle va se faire principalement dans les maisons. Donc, si tu arrives de but en blanc et que tu t'intéresses pas à comment les gens vivent, tu peux faire des fortes erreurs de jugement. C'est-à-dire, tu te dis, ça serait cool que Sainte ressemble au 20e arrondissement de Paris. Non, ça n'arrivera pas pour tout un tas de raisons. Et c'est normal. Mais il y a un autre paramètre, c'est le paramètre économique. C'est-à-dire qu'en fait, ces cabinets, ces agences d'architecture, elles s'insèrent dans un prisme qui est capitaliste, et on y revient à ça, c'est-à-dire que toute cette notion d'attractivité, quand on demande à une ville d'être attractive, on ne lui demande pas simplement de correspondre à des standards culturels de la grande ville, on lui demande d'être rentable, d'être profitable. C'est ça l'attractivité. En fait, si toutes ces villes sont incitées à devenir des marques, c'est incroyable. Maintenant, les communautés de communes, elles engagent des cabinets de communication pour faire des slogans, mais comme si vraiment on était une marque de paquets de céréales. Et donc, par exemple, le slogan de la communauté de communes de Sainte, c'est « Le bonheur, c'est si Sainte ». Genre, c'est vraiment débile. C'est vrai et pas vrai en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, et toutes ces villes, maintenant, ont leur petit slogan pété, quoi. Et leur logo, et puis on va tracer des trucs pour faire des selfies. Enfin bon. Mais ça, c'est la partie la plus ridicule. Mais fondamentalement, ce qu'on veut, c'est que ça soit un lieu attractif, donc qui dégage de l'argent. Et c'est pour ça que toutes ces villes, en fait, elles veulent attirer des riches, des cadres sup, etc. Parce que c'est des gens qui vont avoir un fort pouvoir d'achat. Donc ça va pouvoir stimuler des commerces, des antiquités, des brocantes, de retaper des maisons pour faire de l'habitat de prestige, etc. Et en fait, ça, faut le comprendre. Dans la dynamique générale du capitalisme, il y a un économiste qui s'appelle David Harvey, qui a vraiment théorisé le fait que, en fait, la ville, c'est un espace de marchandisation du capitalisme, et c'est un espace qui sauve régulièrement le capitalisme de ses crises intrinsèques. C'est-à-dire le capitalisme, il a besoin de croissance permanente, il a besoin de nouveaux secteurs, il a besoin de nouvelles innovations en permanence, et malheureusement, il n'y en a pas tout le temps. Et en fait, l'avantage de la ville, c'est que ça permet une reproduction infinie de ça. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez toujours construire, c'est ça la logique, ça c'est Léa Hobson, donc qui est architecte, qui en parle dans le numéro de Frustration, elle montre bien, donc le secteur du BTP, qui est le secteur économique le plus polluant également. Le secteur du BTP, c'est une immense manne, parce qu'en fait, on produit de plus en plus, et ça elle le montre dans son livre consacré au béton, en fait, on produit en plus des habitats qui ne vont plus durer dans le temps. La construction contemporaine, c'est une construction qui est éphémère. Donc en fait, qui nécessite en permanence d'être construite. Et puis on va créer des nouvelles zones en permanence, des nouvelles zones d'activité. Et en fait, David Harvey, il théorise ça. Il dit que la ville, l'espace urbain, il appelle ça le capital fixe. Littéralement, fixe à entendre comme un peu un shoot qui permet en fait de tenir plus longtemps. Et pour ça, les pouvoirs publics déploient des moyens incroyables pour créer des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions. Et parmi ces moyens incroyables, il y a les Jeux Olympiques, par exemple. Les Jeux Olympiques, ça sert principalement à créer une manne de construction, de réaménagement. Et toutes ces capitales du monde sont passées par là, sont passées par cette espèce de... Ça permet au passage de renormer des zones qui ne l'étaient pas, et puis de créer de la marchandisation là où il y avait de la gratuité. Voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est pas tant d'arriver avec une vision urbaine. Alors, ça, c'est un problème. Mais je veux dire, le problème fondamental, c'est d'arriver en voulant marchandiser les espaces dans lesquels on vit, quoi. Et de faire en sorte que tout devienne payant, y compris, c'est ça qui est fou, et David Harvey le montre bien là, dans son dernier bouquin qui est sorti en français, qui s'appelle Géographie de la domination. Il dit même l'authenticité, maintenant, c'est devenu quelque chose de monétisable. C'est-à-dire que maintenant, les villes travaillent non seulement à être attractives, mais en plus à être authentiques, à créer des expériences. Et le tourisme repose beaucoup là-dessus. Vous allez à la Barcelone, vous allez à Berlin. Et d'ailleurs, il explique que c'est un peu une fuite en avant, parce qu'en fait, plus une ville attire des gens parce qu'elle est authentique, bah moins elle l'est. Donc en fait, vous devez ensuite recréer des nouvelles choses pour que Berlin continue d'être authentique, alors qu'on sait bien que le Berlin de maintenant n'est plus le Berlin d'il y a 10 ans. Bah, pour voir mieux, encore moins celui d'il y a 20 ans. Donc c'est toujours le problème. Et on sait bien que c'est pareil sur les quartiers de Paris, etc. Vous devez avoir les espaces de gentrification, par exemple. C'est des espaces qui donnent envie parce qu'ils ont une certaine authenticité, ils ont une certaine simplicité. Et puis à partir du moment où en fait, vous avez trop de riches qui s'installent, ce pourquoi la gentrification existe, bah, du coup, ils perdent un petit peu de leur valeur et vous devez créer des nouvelles zones. Et ça, c'est génial parce que pendant ce temps, vous faites travailler énormément de monde. Vous faites travailler des chaînes de bars, hein, dans le cas de Paris, etc. Vous faites travailler des agences d'architecture, des cabinets d'urbanistes, des entreprises de BTP. On a des grands groupes. La France aussi, voilà, la France, c'est une puissance agricole. C'est aussi donc agroalimentaire qui empoisonne allègrement le reste du monde. Mais c'est aussi une puissance dans le monde du BTP, avec des entreprises comme Vinci, Bouygues, qui sont des entreprises qui ont aussi des forts racines coloniales. Et donc, en fait, on est aussi prisonnier. Si les villes... Il y a un peu ce truc de dire pourquoi les abords de villes françaises sont parfois aussi enlaidis par ces zones commerciales, etc. Bah, c'est parce qu'il y a cette recherche en permanence de créer des nouvelles zones, de nouveaux espaces, et de rogner petit à petit aussi, d'ailleurs, ce qu'on appelle la bétonisation, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de zones qui sont vierges de construction, ce qui pose d'énormes problèmes écologiques, et puis de problèmes de rapport à l'espace, c'est-à-dire que bah, l'expérience vécue de vivre quelque part en France, c'est toujours être menacé par des projets qui risquent de te faire habiter plus loin, de changer tes habitudes, de détruire toutes tes solidarités qui existaient et tous ces liens de gratuité qui deviennent des liens marchands, par exemple. Ça, c'est ça que fait le capitalisme. Et en fait, cette quête de marchandisation de nos besoins et de notre vécu, c'est vraiment contre ça qu'il faut se battre, quoi. Et c'est d'autant plus pernicieux, et ça c'est Clément Sénéchal qui le montre dans son article sur l'écologie urbaine, que c'est fait, tout ça est fait au nom de grandes valeurs et notamment au nom de l'écologie, quoi. C'est-à-dire que maintenant, en France, les nouveaux quartiers qui sont bétonisés, ce sont souvent des éco-quartiers. Ce qui implique en réalité pas grand-chose, à savoir une façade végétalisée qui ne sera pas arrosée et dont les végétaux crèveront dans 2 ans. Et voilà. Donc, c'est d'autant plus difficile à combattre que c'est souvent fait au nom de valeurs nobles.
Merci à vous deux. On va bientôt devoir libérer la librairie. Du coup, on va prendre quelques questions si vous êtes intéressés. Le fil du micro est très long, donc je peux...
Je sais pas si... Sûr. Salut. Alors, tout à l'heure, en gros, vous avez essayé de répondre un petit peu à la problématique qu'il y a dans la distinction entre la tour et entre les tours et les bourgs. Tu avais parlé du travail comme d'un champ où, finalement, enfin, qui charriait un petit peu d'une problématique commune entre les deux. Et j'avoue que ça me pose quand même question, surtout quand on voit que bah, en filigrane de cette question de la tour et des bourgs, des banlieues et de la province, il y a aussi en filigrane la question raciale, et là-dedans là, aussi, le rapport au travail et le travail en tant que tel est une question, dans le sens où c'est aussi un champ d'exclusion pour les populations non blanches. Et là-dedans, j'ai l'impression que la stratégie bourgeoise ne s'y trompe pas et capitalise là-dessus, en ayant un discours qui consiste à derrière affubler les uns de ne pas travailler, de juste prendre les fruits du chômage, là où une autre partie serait quand on a besoin d'une masse qui va plus voter RN, qui serait plus productive et qui du coup aurait un intérêt au contrat racial, quoi.
Bah oui, merci beaucoup pour cette question. En fait, bah oui, en fait, ce à quoi on doit faire face, c'est qu'effectivement la question du travail, elle est traitée, mais elle est traitée sous l'angle de division raciale, avec une opposition, par exemple, entre des gens qui seraient des parasites et puis des gens qui seraient la France qui CFTO. On voit que c'est un thème qui existe dans la politique française au moins depuis Nicolas Sarkozy, mais en fait même avant quoi. Donc en fait c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire que et même d'ailleurs au sein des entreprises il y a des vraies oppositions qui sont faites. Bah, il y a une division déjà raciste du travail et puis ensuite il y a des oppositions racistes qui sont faites entre les gens. Donc en fait je suis bien d'accord, c'est cette logique qu'il faut réussir à contrer. Et en fait, c'est pour ça que je disais trouver des dénominateurs communs en reconnaissant des inégalités. C'est ce qu'on essaie de faire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il peut y avoir une vision un peu marxiste, comme on dit, colorblind, qui va dire non, mais on est tous des exploités, faut s'unir au-delà de nos différences. Sauf que quand tu dis ça, tu reconnais pas les différences en réalité. Et tu reconnais pas que, au sein de l'expérience de l'aliénation au travail, non, il y a des degrés différents, en fait, quoi. Là, il y a des rapports qui sont sortis sur les revenus et les conditions de travail des livreurs à vélo, qui sont aussi souvent des personnes noires et arabes, parce que qui vont être en bas de la hiérarchie professionnelle en France. On voit que leurs conditions sanitaires, leurs revenus sont lamentables, que c'est vraiment le plus haut niveau d'exploitation qu'on connaît en France, c'est les travailleurs ubérisés. Donc oui, on peut pas dire les gars, on est tous dans le même bateau, on vit exactement la même chose. Et pourtant, faut réussir, et c'est toute la difficulté, faut réussir quand même pour contrer le discours raciste, faut réussir à réunir des gens qui bénéficient, comme tu dis, du pacte racial, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la société française, y a des gens qui bénéficient de conditions meilleures que d'autres, y compris au sein du salariat, et des gens qui n'en bénéficient pas, qui se font encore plus exploiter que les autres. Et pour autant, ça reste cette alliance-là qui nous permettra de triompher de la bourgeoisie. Mais pour l'instant, c'est fait. On prenait le slogan des tours et des bourgs parce que c'est celui de François Ruffin. Et en fait, pourquoi la position de François Ruffin, nous, on s'en est, on l'a critiqué. C'est parce que souvent, ça passait par justement ce truc de dire les questions de racisme et d'islamophobie, on va pas les traiter parce qu'il faut qu'on parle plutôt de nos déterminants économiques, etc., etc. Et ce discours-là, il a fait du mal parce qu'en fait, il a été dans le déni d'expériences qui sont des expériences sociales aussi, quoi. Quand tu te fais, les expériences de contrôle au faciès, les expériences de, pour le coup, c'est une atteinte à sa mobilité, puisqu'on peut pas aller dans certains endroits. C'est clairement une expérience sociale qui est niée par l'idée que, on vit tous la même chose, quoi. Donc, en fait, je suis arrivé à faire vraiment les deux. J'espère que nous, à Frustration, on essaie de le faire le mieux possible, parce que sinon, tu passes à côté de toute une partie du problème, et surtout, ton discours, il est pas audible. Parce que du coup, ça reviendrait à dire que la lutte contre la bourgeoisie, si ça devient uniquement un truc de blanc, parce que c'est des gens qui reconnaissent pas le racisme, on n'avancera rien, quoi. Voilà.
Oui, merci aussi de l'aborder, effectivement, parce que quand on parle du vote RN dans les campagnes, en fait aussi on assimile les populations rurales à des personnes racistes. Pour ça, je pense qu'il faut... En fait, évidemment que le racisme est aussi... Comme dit Loumir Lapré, qui est activiste rural, est un peu la pierre angulaire, mais essentialiser les ruraux comme étant racistes, c'est faire l'impasse en fait, sur toutes les causes plus profondes de ce vote RN. Bien évidemment que le racisme existe partout, dans les campagnes, dans les villes, il est plus visible chez les gens qui votent RN et qui sont majoritairement des classes, des petites classes moyennes en déclin. Et d'ailleurs, je recommande le livre de Loumir Lapré, ces gens-là qui évoquent ce phénomène. Mais il faut... vraiment parvenir à ne pas tomber dans cette essentialisation des personnes qui seraient racistes parce que isolées, parce que conservatrices, parce que il n'y aurait pas de culture à la campagne, il n'y a pas d'espace culturel. Ça, on en a pas parlé aussi, mais pareil, comme disait Nicolas sur le fait que les lieux de sociabilité ne sont pas visibles à la campagne, les lieux culturels ne sont pas forcément visibles parce qu'il n'y a pas vraiment de lieux consacrés comme des théâtres, etc. Mais en fait, elle est partout, c'est-à-dire dans l'espace public, à travers des événements qu'on peut organiser à l'extérieur ou dans les salles polyvalentes ou les salles des fêtes ou la culture orale transmise au sein même des foyers. Donc il y a bien de la culture et il y a aussi des gens lettrés et il y a aussi des livres. Et même chez les agriculteurs et agricultrices, je sais de quoi je parle parce que toute ma famille est issue de ce monde-là et ce sont des gens très lettrés. Ma mère est par ailleurs aussi prof, et c'est, il y a beaucoup de profs qui sont des filles et fils de paysans, etc. Donc c'est pas pour rien. Donc je voulais aussi évoquer ça pour, parce qu'on a tendance à penser que voilà, les personnes qui sont qui vivent dans les territoires ruraux sont illettrées, sont sous-éduquées, etc. Donc je m'égare, mais en tout cas voilà, je voulais répondre à cette question en disant que effectivement c'était un vrai sujet, le racisme, et je vous recommande le travail de Lumière Lapré pour ça.
Bonsoir. Du coup, ça fait un lien. Vous m'entendez? Oui. L'égarement fait un lien avec le truc que je voulais dire. Moi, il me semble qu'il y a une autre bataille commune qui est un peu invisible, mais qui est la question de l'école. Il y a des articles qui sont sortis récemment sur le lien entre vote RN et sentiment de déclassement et de vécu scolaire douloureux. Et ça, c'est un truc qui est aussi très partagé par beaucoup de classes populaires de tout lieu, et par d'autres gens aussi. C'est l'école comme vécu de honte sociale, de rejet, d'échec, et comme ancrage d'un manque de confiance en soi très fort. Et je pense qu'on a tous des récits de grands-parents, de mères ou de pères qui sont encore aujourd'hui traumatisés de le brevet qu'ils n'ont pas eu, le prof qui les a rabaissés, etc. Et ça, je pense que c'est un vécu commun qu'on pourrait aussi mobiliser plus dans les luttes collectives, et qui est aussi pas mal bourgeoisisé, si j'ai bien compris le terme. Et on intériorise aussi tout ce que, enfin bon, moi je viens d'un milieu prolo, et vous m'avez fait beaucoup rire parce que je me suis vue à 25 ans arriver avec mes petits filets en tissu et dire à mes parents ça suffit, les sachets papier, alors que quand j'ai fait mon bilan carbone et que j'ai regardé le leur, je me suis quand même pris une claque dans la gueule, et je me suis rappelé pourquoi j'aimais mes parents. Parce que eux, ils ont pris l'avion 2 fois dans leur vie, ils ont le même canapé depuis 35 ans, et en fait, ils polluent 40 fois moins que moi, même avec mon vélo et mon train à Paris. Mais et en plus, ils m'ont transmis ça sans que je m'en rende compte. Mais voilà, mais l'école, c'est pareil. En fait, on intériorise des formes de domination sur la culture bourgeoise et l'éducation bourgeoise, ça serait la meilleure et la seule bien. Moi je m'engueule des fois avec des potes là-dessus, parce qu'ils pensent que parce qu'ils amènent leurs gamins au théâtre et qu'ils leur lisent des livres en anglais, ils ont la meilleure éducation du monde. Et des fois j'ai envie de leur dire, mais ton gamin il s'ennuie quand? Quand est-ce qu'il a le droit de jouer? Quand est-ce qu'il a le droit de rien faire et de rêver? Et quand est-ce que tu lui laisses lire un livre sans lui apprendre un mot de vocabulaire par minute et qu'il puisse pas rentrer dans l'histoire? Et en fait non, ton éducation elle est pas forcément mieux que la mienne, et moi aussi j'ai eu plein de choses belles et qui m'ont aussi émancipée, et qui n'ont pas de valeur à l'école, mais qui ont grave une valeur dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on invisibilise et qu'on se laisse raconter. Par exemple, en se laissant raconter que l'éducation littéraire bourgeoise est meilleure que d'autres formes d'éducation. Et l'autre truc qu'on se laisse raconter, c'est que si on rate à l'école, c'est parce qu'on est bête. Alors qu'en fait, tous les sociologues de l'école le montrent, on rate à l'école parce que l'école produit du décrochage par la manière dont elle enseigne, dont elle fait les programmes, dont elle vend le rapport au savoir comme une abstraction, comme meilleure que d'autres formes de savoir, alors que plein d'études montrent aujourd'hui qu'on apprend mieux quand on connecte le savoir théorique, la pratique, le vécu, et qu'il n'y a pas nécessité d'opposer les deux, au contraire. Et voilà, et donc je pense que ça serait une autre bataille commune qui mobilise en plus des vécus intergénérationnels très forts, très puissants émotionnellement, et qu'il faudrait qu'on porte aussi, y compris, voilà, je veux dire, le vécu scolaire, du racisme, du mépris social, de toutes sortes, c'est des expériences partagées. Et inversement, voilà, les médias qui nous expliquent qu'en banlieue, on n'est pas des citoyens, on vote pas, et on n'est pas dans les valeurs de la République. Alors que quand on regarde le vote RN, maintenant, il diffuse aussi dans les milieux bourgeois, il diffuse dans d'autres milieux. Et personne ne se demande quand est-ce que ces gens ont appris les valeurs de la République dans leur école bourgeoise. Et pourtant, de toute évidence, ils ne l'ont pas appris vu comment ils votent aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de trucs à déconstruire aussi sur l'école et l'éducation bourgeoise, et de choses à réaffirmer sur ce que l'éducation populaire a de bien, sans naïveté, sans angélisme, et sans oublier que dans nos éducations populaires, on intériorise aussi des normes de soumission, qu'on les reproduit sur nos enfants, et que c'est aussi des choses qu'on peut... dont on peut vouloir se détacher. Enfin, voilà. Donc, je voulais juste rajouter ça dans les batailles collectives.
Comme tu veux. Ouais, je peux. Non, pour dire que je suis assez d'accord avec ce constat. Je pense que oui, c'est peut-être une expérience qui peut être mobilisée. En tout cas, En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que, effectivement, l'institution scolaire, elle produit beaucoup de traumatismes scolaires. Elle entérine des sentiments d'infériorité. Alors, elle entérine aussi pour certains des sentiments de supériorité. Et toute une partie de nos problèmes viennent de là. Hein. Les gens qui nous gouvernent, quelqu'un comme Macron, quelqu'un comme Gabriel Attal. Je ne sais pas pourquoi je parle de Gabriel Attal, mais j'aime bien le faire de temps en temps. C'est des gens qui, par leur parcours scolaire absolument calculé depuis le début par leurs parents, ont intégré l'idée qu'ils avaient un droit à nous gouverner et à décider à notre place ce qui était bon pour nous. Voilà. Donc là, voilà, Gabriel Attal, il veut qu'on travaille le 1er mai parce qu'il pense que c'est mieux pour nous. Et donc, ces gens-là, l'institution scolaire leur donne le sentiment de supériorité, mais l'institution scolaire, malheureusement, elle produit aussi le sentiment d'infériorité, le sentiment d'être nul, le sentiment d'être responsable de ses propres échecs. Elle va entériner des positions sociales inégalitaires en disant « bah voilà, c'est parce que t'as pas assez travaillé à l'école ou que t'as pas eu tel diplôme ». Donc ouais, c'est extrêmement violent et c'est bien d'en parler parce que je pense que le militantisme de gauche a eu tendance à reproduire ça et continue de reproduire ça, c'est-à-dire l'idée que si tu connais pas tel truc, si t'as pas lu tel truc, bah t'es pas légitime pour t'exprimer et que la politique serait affaire de compétences et pas de vécu, et pas d'expérience. Et ça, c'est quand même un gros problème que nous, on essaie de contrer à Frustration Magazine dans la limite de nos possibilités, parce que nous, on est quand même un média écrit. Donc oui, ça crée des limites, oui, ça crée une certaine surplombance, mais par contre, nous, on essaie toujours de se référer à des expériences quotidiennes, des expériences vécues, et à pas mettre en premier les expériences théoriques, parce qu'il nous semble que c'est adopter un certain prisme, pour le coup bourgeois, du rapport au savoir, qui est que le savoir, c'est d'abord des savoirs théoriques et ensuite des savoirs pratiques, et que les savoirs théoriques ont une sorte de supériorité universelle, serait plus qualitatif. Alors qu'encore une fois, tout ça c'est faux, puisque tous ces gens qui ont lu des philosophes, tous ces gens... Moi c'est marrant parce que, par exemple, mon père qui a fait une première année d'études, etc., mais voilà, qui n'a pas un aussi long parcours scolaire que les gens qui nous dirigent, souvent il a cette interrogation, encore à son grand âge, il me dit, mais comment des gens qui ont fait autant d'études et qui ont autant lu peuvent dire des choses pareilles, quoi. Et moi je suis étonné qu'il soit toujours étonné. C'est-à-dire qu'il a vraiment intériorisé l'idée qu'on est gouverné par des gens compétents, qui parce qu'ils auraient lu des grands auteurs, etc., qu'ils auraient fait des études comme Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. En fait, lui, il était étudiant jusqu'à 28 ans, vraiment sans jamais travailler. Ça a été le pire ministre de l'économie de la Terre, enfin pour nous. Évidemment, pour la bourgeoisie, ça a été très arrangeant. C'est pas une question de compétence, c'est une question d'intérêt de classe, par exemple. Il était précieux pour la bourgeoisie, il a été horrible pour nous. Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Enfin, si, mais il n'y a pas de vrai ou de faux là-dedans. Il y a la vérité de la bourgeoisie qu'il a intégrée. Et donc, en fait, vraiment, sortir de cette idée et surtout ne pas la reproduire dans le monde militant ou dans le mouvement social, qui est de dire, en gros, il y aurait une sorte de ticket d'entrée dans la révolution qui serait est-ce que tu es sûr, camarade, de bien maîtriser les textes ? Parce que sinon, peut-être qu'on va pouvoir compter sur toi, quoi. Et ça, pour moi, c'est la reproduction de postures scolaires. Et du coup, ça va faire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les gens qui vont s'engager politiquement, ça va être des bons élèves. C'est-à-dire des gens qui ont été des bons élèves, pour qui ce genre de rapport à l'action, c'est-à-dire un rapport théorique d'abord, qui va ensuite se vérifier dans la pratique, va leur convenir. Or, la majorité des gens, ils ont plutôt une expérience, malheureusement, hein, plutôt négative, ou en tout cas teintée de complexe par rapport à ce rapport scolaire aux choses.
Oui, et puis on voit beaucoup dans le vote aussi d'extrême droite qu'il y a un des arguments, c'est une des raisons souvent évoquées, c'est la défiance envers l'élite du diplôme. Et je pense qu'il y a aussi déjà on voit que dans les statistiques, plus on est diplômé, plus on vote à gauche. Mais je pense qu'il y a un cercle vicieux aussi parce que a priori il n'y a pas d'université dans le Lot, donc on est obligé de partir en ville. Mais rien ne nous permet en tout cas de revenir faire les allers-retours. Ça coûte cher de reprendre le train. Le système ferroviaire est pas toujours très pratique pour revenir. Et puis surtout, en fait, encore une fois, il y a cette représentation, il y a cette image qui est véhiculée par la société que partir en ville, c'est s'émanciper, rester, c'est rester stagner. que revenir, c'est faire un bond en arrière. Moi, quand je suis revenue m'installer, on me disait, ah, mais pourquoi tu n'arrives pas à t'acclimater à la ville, tu sais pas te repérer dans le métro. Non, 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 c'est un choix. On pense toujours que c'est subi ou que c'est qu'on est inadapté au monde moderne. Et on va présenter la ville comme le lieu du savoir et les campagnes comme les lieux plutôt manuels, parce qu'il y a aussi tous les CFA et tous les formations plutôt manuelle ou professionnalisante. Et en fait, sauf que voilà, on part, on va étudier à l'université à Toulouse, et encore une fois, on va intégrer le fait qu'il faut travailler en ville. En plus, il y a plus d'emplois dans les grandes villes. Et on ce qui allait accepter, c'est passer 35 ans quand on a des enfants pour qu'ils puissent grandir au vert. On va là pouvoir revenir acheter une maison plutôt dans une résidence, enfin dans un lotissement avec un jardin, etc. Là, c'est OK de revenir. Et moi, j'aime bien le choix de. Je cite toujours ma maman qui a fait le choix, elle, de ne pas faire profiter de la ville, enfin de ses savoirs à la ville. Et elle a dit, je veux pas qu'il y ait une fuite de la matière grise en ville. Tout ce que j'ai appris, que ce soit elle connaît à la fois toutes les capitales du monde, mais aussi tout le nom de chaque parcelle, de chaque champ et de chaque chemin qui nous entoure. Donc il y a aussi les savoirs légitimes des campagnes qui sont pas forcément aussi mis en avant quand on va faire passer les concours de culture G pour intégrer les écoles de journalisme, etc., qui se basent plus sur les musées qu'on a vus à Paris que par exemple sur pouvoir citer trois poètes occitans classiques. Je parle de ça parce que j'ai la croix occitane là et que je suis aussi très fervente sur les cultures orales et les cultures régionales qu'on a, mais qui ont complètement été effacées, invisibilisées avec de la violence symbolique et de la violence physique et la disparition des langues régionales par la République. Donc petite parenthèse fermée. Elle a voulu revenir vivre et faire profiter de toutes les savoirs qu'elle avait acquis au Lot. Et donc elle est jamais à part pour ses études, elle a toujours vécu dans le Lot et elle a travaillé dans le Lot aussitôt. Et elle a politisé ça. Et ma sœur a fait exactement la même chose. Et je suis très fière d'elle parce que justement elles ont fait la décision à contre-courant et malgré le regard très méprisant de leurs amis qui avaient roulé leur bosse à Paris, de ne pas du tout travailler dans des grandes métropoles, mais de travailler dans le Lot.
Il est venu l'heure de clore la discussion. Et du coup, déjà, on voulait vous remercier, Emma et puis Nicolas, et puis aussi à la librairie Le Monde en l'air de nous inviter ici sur cette place pour discuter, puis vous aussi d'être venus aussi nombreux. Puis on vous invite à nous suivre les causes heureuses sur Instagram, à suivre Frustration Magazine, à suivre Emma, à suivre Nicolas, et puis à vous procurer Frustration Magazine qui est en vente dans la librairie. Merci.
Merci beaucoup.